Bienvenue à l'émission Connaître la suite. Ce soir, on a le plaisir de s'entretenir avec M. Adrien Pouliot, vice-président de la commission politique de l'ADQ. On se retrouve dans quelques minutes en compagnie de Danny et Steve. Bienvenue tout le monde, émission Connaître la suite. En ce 27 mai, l'été approche à grands pas et reste 4 émissions à connaître la suite. Ça a passé vite, Danny. C'est incroyable.
Ouais, oui.
Et là, ben, c'est la fin de la saison du hockey. Le sujet de conversation omniprésent partout dans notre société va s'estomper et on va pouvoir revivre de bonnes discussions. Et de débats politiques, on l'espère.
Un bon septième match ce soir.
Oui. Ben c'est vrai en plus, soir de septième match. Et bon, on va regarder ça du coin de l'œil. On sait que notre auditoire sont friands du hockey. Et surtout à Québec.
Hein? Habituellement, ils sont sur la route aussi. Il y a une bonne partie de notre auditoire. Là. Donc, on s'est dit, on va suivre les résultats du coin de l'œil. Là, puis on va vous tenir au courant. Parce que là, ce soir, c'est Lightning contre Boston. Septième match, sans voir la Coupe Stanley.
Effectivement. On est désolé.
Et on n'est pas d'accord sur le choix.
Sur le choix.
Moi, je prends pour Boston. Donc, on va suivre ça de proche.
On est désolé pour ceux qui nous réécoutent en diffusion, parce qu'eux autres, en rediffusion, plutôt, ils ont déjà les résultats.
Exact.
Ce soir, on a encore une émission assez chargée et on va débuter à l'instant avec notre première invitée. C'est un grand plaisir pour nous ici de l'accueillir. Je parle ici de M. Adrien Pouliot, qui est depuis tout récemment vice-président de la commission politique de l'ADQ. Bonsoir, M. Pouliot.
Bonsoir à vous deux.
Ça va très bien?
Oui, très bien.
Hey, merci beaucoup d'avoir accepté notre offre. On sait que c'est pas évident toujours une émission comme ça en fin de soirée, un vendredi soir, mais on apprécie.
Ben, ça me fait plaisir d'être avec vous.
Justement, je faisais mention que vous êtes maintenant vice-président de la commission politique de l'ADQ. Je crois que votre nomination remonte à mars, hein?
Oui, c'est exact.
Donc, c'est pour vous une première expérience, le conseil général que vous avez vécu le 14 et le 15 mai?
Oui, moi je suis un néophyte en politique. J'ai toujours aimé les politiques publiques, mais là j'ai décidé de faire un peu le saut dans l'arène. Alors ça a été le baptême par le feu.
Le baptême par le feu. Effectivement, et c'est assez dynamique en frais d'événements. Quand on parle d'un conseil général comme ça, il y avait beaucoup aussi de médias présents, hein. Faut pas se le cacher. Justement, ce soir, on voulait parler un peu du contenu des propositions parce que faut expliquer, et j'ai essayé de comprendre évidemment en parcourant votre site internet, que la commission politique, en fait, c'est l'organe de l'ADQ qui est mandaté pour présenter la majorité des propositions.
Exactement. Alors donc, la commission politique présente des propositions. Il y a aussi des propositions qui viennent des tables régionales et de la commission jeunesse. Alors donc, il y a trois groupes, si on veut, là, qui présentent des propositions.
OK. Et justement, là-dessus, de quelle façon vous avez recueilli ces propositions-là? Parce que j'imagine que d'avancer des choses, c'est une chose, mais comment est-ce qu'on identifie les priorités et les propositions qu'on va mettre de l'avant?
Ben, le président, M. Claude Garcia, qui est l'ancien président de la compagnie d'assurance Standard Life et qui préside la commission politique, donc avait une vision de ce qu'on voulait inclure là-dedans. Alors, on avait, des grands thèmes, les sociétés d'État, les relations de travail, finances publiques et fiscalité, entreprises, développement durable. Alors, donc, ça, c'était les grands thèmes. Plus, évidemment, comme on disait tantôt, là, les propositions régionales et les propositions de la commission jeunesse. Et donc, on s'est, lui et moi, séparé le travail pour commencer ou faire les projets de propositions qui ont ensuite été discutés en groupe à la commission politique. Donc, on a eu quelques réunions avec tout le monde de la commission politique pour discuter des différentes propositions.
Et le 14 et 15, vous avez présenté au total combien de propositions?
Alors, au total, la commission, si on peut dire les propositions nationales, il y avait 22 propositions et il y avait 13 propositions régionales.
Et donc, c'est par vote, hein, j'imagine, à chaque proposition qu'on...
Alors, c'est ça. De la façon que ça fonctionne, c'est que la proposition est présentée, elle est lue, et ensuite de ça, il y a un débat avec par les gens de l'Assemblée et on vote sur chacune des propositions. Alors, on peut soit l'accepter, soit la refuser ou soit la retourner à la commission politique pour que la commission politique tienne compte des commentaires de l'Assemblée et la reformule pour une présentation qui se fera à un autre conseil national.
Ah, OK, c'est bien. Et justement, quelle a été la réception en général par rapport à vos propositions? Est-ce qu'ils ont été bien accueillis?
Ben écoutez, comme je vous dis, moi, c'était mon premier conseil national, donc c'est difficile pour moi de juger,
ouais.
Mais... Dans celles qui ont été présentées par la commission, sur les 22 propositions, il y en a seulement une qui a été rejetée. Il y en a 5 qui ont été retournées à la commission pour qu'elles soient retravaillées. Et il y en a 16 qui ont été acceptées. Alors, si je regarde mon bulletin, là,
ouais, c'est ça.
Disons que j'ai eu comme 72% de propositions acceptées et finalement seulement une seule de refusée.
OK. Parce que j'imagine que le fait de s'investir et d'être vice-président justement de la commission, ça fait en sorte que c'est un peu de vous aussi à chacune des propositions parce que c'est des choses que vous avez discutées longuement, comme vous avez fait mention, à différentes tables. Donc, vous vous appropriez, j'imagine, ces propositions-là, peut-être un petit peu plus que le membre qui, lui, doit voter.
Oui, et disons que ça, c'est une expérience nouvelle pour moi. Et donc, il y a une certaine... émotivité, si on veut, on s'approprie justement, comme vous dites, la proposition. Alors là, on arrive en conseil, il y a 400 personnes et moi et M. Garcia, on n'est pas là pour défendre les propositions ou argumenter. On présente la proposition et ensuite de ça, on écoute l'Assemblée qui en discute. Alors évidemment, c'est sûr qu'on a envie de prendre le micro de temps en temps et de défendre.
Défendre, oui.
C'est pas ça la façon que ça fonctionne. Vraiment, c'est une démocratie et donc c'est l'Assemblée qui décide. Alors, donc il faut s'asseoir sur nos fesses, se mettre les deux mains en dessous des fesses puis attendre. Ben, ça arrive par contre que pour des points techniques, on peut demander à la commission d'expliquer des points,
okay.
Mais ça demeure seulement des questions techniques. Là.
Mais justement, le fait que vous êtes très actif dans le domaine, dans diverses industries, vous êtes chef de direction, ainsi de suite. Donc, comment on vit ça, justement, le fait que, habituellement, vous êtes celui qui prenait les décisions dans les organisations, vous faites partie des décideurs. Comment, là, on gère ça, cet aspect-là, où on doit laisser aller un peu sa proposition à tout le monde et accepter le regard des autres?
Ben, je pense que l'idée qu'il y ait un vote sur la proposition, moi, je pense que c'est bien correct, c'est bien, c'est ça la démocratie. Ce qui est un peu difficile, c'est de se taire. Tu sais, ça, c'est le bout qui est
ouais.
difficile parce qu'on est là, on a envie de dire non, ça, c'est pas tout à fait ça, ou voici ce qu'on voulait dire, ou voici l'objectif. Mais c'est correct, par contre, de laisser les membres s'exprimer. Et puis, en bout de piste. les propositions sont retournées et elles sont retournées pour des bonnes raisons. Alors donc, on prend note des raisons pour lesquelles elles sont retournées. Et il y a des ajustements à faire, il y a des précisions à apporter, et ensuite de ça, ben on les ramènera au prochain conseil ou en temps et lieu, et on les bonifiera à ce moment-là des commentaires des membres.
Et dans celles que justement vous qui ont été retournées ou celles qui n'ont pas passé finalement, est-ce qu'il y en a parmi celles-là que vous étiez convaincu que ça allait aller de l'avant et vous êtes surpris peut-être de la tournure des événements par le vote?
Ben écoutez, moi, encore une fois, c'était mon premier conseil national. Alors donc, j'étais étonné. Ben, moi, je m'attendais à ce que les 22 passent, tu sais, mais c'est parce que je suis jamais allé à un conseil national. Et évidemment, je suis assez, disons, compétitif. J'aime toujours avoir 100% dans mon bulletin. Mais quand je regarde les raisons pour lesquelles les propositions ont été retournées, je pense qu'il y avait, dans certains cas, il y avait vraiment des raisons que je comprenais. Il y a des propositions qui sont assez complexes et on nous demande de présenter une proposition sur deux pages et des fois, résumer des propositions assez complexes sur deux pages, c'est pas évident. T'sais, alors, par exemple, dans un cas, on parlait de la caisse de dépôt et ce qu'on proposait, c'était... de prendre une partie de l'argent qui est à la caisse de dépôt qui appartient aux fonctionnaires, qui est le fonds de pension des actionnaires, et on voulait séparer cet argent-là et le faire gérer par les fonctionnaires eux-mêmes, plutôt que de les faire gérer par la caisse de dépôt. Et on utilisait un véhicule qui s'appelle la CARA, et là, il y a des gens qui ont posé des questions sur la CARA, les objectifs ou les rendements de la CARA. Et bon, ça, on n'avait pas expliqué ça. Alors donc, avec raison, je pense, on a dit, ben écoutez, allez préciser exactement qu'est-ce que c'est la CARA, qu'est-ce que ça fait, et quand vous l'aurez mieux expliqué, ben vous pourrez nous revenir. Alors donc, c'est bien correct. Tu sais, il faut comprendre que c'est des propositions complexes, et quand on résume ça en deux pages, on peut pas tout dire. Alors donc, c'était des bons commentaires.
Et j'imagine que les membres prennent connaissance de ces propositions-là au moment même. Il y a rien qui est divulgué avant le Conseil général.
Alors écoutez, je sais pas comment ça se faisait dans le passé, mais cette fois-ci, en tout cas, M. Garcia a insisté pour que les membres aient les propositions une semaine à l'avance.
Ah, OK.
Alors donc, et moi en tout cas, je trouve que ça fait beaucoup de sens. Je veux dire, tu peux pas arriver là puis lire un cahier qui a 85 pages ou 90 pages puis être capable de. Alors donc, on a envoyé le cahier à peu près une semaine à l'avance et on a présenté le cahier à la presse une semaine à l'avance et donc ça a permis aux gens là de pouvoir y réfléchir et on a beaucoup apprécié ça. En passant, une autre partie du processus qu'on a fait, c'est qu'on a fait une tournée régionale avec la première ébauche des propositions. Alors, on est allé dans différentes régions, soit physiquement ou soit par vidéoconférence, pour consulter les membres.
OK.
Et on a beaucoup aimé ça, on a eu beaucoup d'interactions et c'est quelque chose qu'on va vouloir continuer à faire.
Ah ben, c'est bien. Parce que on se demande toujours si on consulte, puis on le sait qu'aujourd'hui, il y a des mouvements, des coalitions, il y a beaucoup de choses qui se trament. Hein. On sait que sur la twittosphère ou sur les réseaux sociaux aussi, c'est-tu une forme aussi de consultation pour vous? Avez-vous été vers ces nouveaux médias-là ou ces plateformes, ces mouvements-là?
Ben, moi, personnellement, je suis sur Facebook et j'accepte tout le monde qui veut venir sur Facebook pour jaser de ces propositions-là ou de, ce qu'on va appeler, les philosophies qui sont plus,
c'est ça.
Guillemets, de droite. Là, je mets ça en guillemets parce que ça veut dire n'importe quoi là, quand on dit qu'on est de droite. Mais alors donc, et c'est quelque chose que j'ai fait récemment. Donc j'ai eu beaucoup de feedback, excusez l'anglicisme, sur le conseil après, via Facebook et je trouve que c'est vraiment un moyen d'échange très intéressant.
Fabuleux.
Et puis je vais continuer à en faire.
OK. Et cette année, le thème du Conseil général était « Moins d'État pour mieux gouverner ». Donc, j'imagine que l'ensemble des propositions que vous avez déposées, elle est en ce sens-là?
Oui. En fait, ce qu'on voulait généralement, c'est de dire que l'État devait prendre un peu moins de place et laisser la place aux individus, aux employés syndiqués, aux entrepreneurs, aux consommateurs, aux contribuables qui, selon nous, sont capables de prendre leurs propres décisions eux-mêmes. Alors donc, c'est exactement ça. C'est de dire on veut un État, On veut pas mettre la hache dans l'État. On parle pas de démanteler l'État parce qu'on pense que l'État a un rôle à jouer, un rôle essentiel. Mais on voudrait que, justement, l'État s'en tienne à l'essentiel et laisse un peu plus de place, un peu plus d'air, donne une bouffée d'air aux gens. On veut protéger les droits et libertés des individus. Donc, c'est ça, moins d'État pour mieux gouverner.
Donc, c'est en ce sens-là qu'il y avait vous avez fait des propositions pour justement introduire la concurrence au niveau de la Société des alcools du Québec et l'Auto-Québec.
Oui, alors donc les sociétés d'État, on a touché plusieurs sociétés d'État. On a touché Hydro-Québec, on a parlé de la Société des alcools, on a parlé de l'Auto-Québec, on a parlé de la Caisse de dépôt. Et aussi du rôle que peuvent avoir les partenariats publics-privés dans les projets d'infrastructure et dans les services municipaux.
Et là, on ne parle pas des syndicats.
Non, on a eu un autre chapitre sur les syndicats.
Non, c'est ça, mais des fois, les partenaires, on peut considérer les syndicats comme des partenaires.
Oui, c'est ça.
Mais effectivement, et vos propositions étaient intéressantes. Comment vous avez jugé la perception des médias en général? Parce qu'il y en a qui ont, en bon québécois, tapé sur le clou. Ils en ont profité pour faire une campagne de peur. Mais j'imagine que vous étiez assez confiant par rapport à ces mesures-là, justement, qui visaient à introduire la concurrence ou à rationaliser peut-être un peu ces sociétés d'État-là.
Oui, on a les mesures qu'on a approuvées, ce ne sont pas des mesures, généralement, ce ne sont pas des mesures de privatisation, ce sont simplement des mesures où on pense que l'arrivée de la concurrence va stimuler la productivité, l'innovation, l'efficacité des sociétés d'État. Et c'est pas parce que ce sont des sociétés d'État, mais c'est surtout parce que ce sont des monopoles. On dit on est un peu contre les monopoles parce que le monopole, on le sait, moi j'ai déjà eu des monopoles en câble haute distribution dans les années 80. C'était un monopole et franchement, ça prend pas un génie là pour faire de l'argent quand tu as un monopole. Alors ce qu'on suggère, c'est de trouver des façons d'améliorer le service, de stimuler les entreprises qui ont des monopoles en introduisant de la concurrence. Et je pense que en fait, on a bien réussi dans tout ce qu'on a proposé, ou presque tout ce qu'on a proposé. On a eu une certaine mesure d'introduction de concurrence qui a été approuvée par les membres.
Puis ça, c'est de bonne augure, justement, parce qu'on voit qu'au Québec, peut-être dans le reste du Canada, surtout avec le conflit de postes, de la Société des postes du Canada, on se rend compte que les gens ont peut-être un éveil là, plus particulier, là où le timing semble être là actuellement.
Oui, je pense que oui. L'exemple de la Société des postes est un bon exemple. Quand on... En fait, moi, j'ai déjà rencontré les gens de FedEx à Memphis et c'était fascinant de les entendre parce que eux, la première fois qu'ils ont eu l'idée de prendre du courrier puis de le distribuer même, c'était illégal. Ou la Société des postes américaines a tout de suite poursuivi en disant « Vous n'avez pas le droit de faire ça ». Et avant que FedEx n'existe, tout le monde disait « Ben, la seule entité qui est capable de livrer le courrier, c'est l'État. »
C'est l'État, ben oui.
Ça ne s'est jamais fait autrement, puis il faut absolument que chaque petit village ait son bureau de poste, puis tout ça. Alors que, de fait, c'est pas le cas. Alors, donc, l'introduction de la concurrence, ça stimule, ça permet de comparer. Et quand on regarde la Société des postes du Canada, bon, la Société des postes du Canada fait de l'argent, donc on peut, au moins, il n'y a pas de perte. Mais quand on regarde partout ailleurs, en Europe, maintenant, il y a de plus en plus de concurrence. Et je vois pas pourquoi on devrait protéger les postes. Je veux dire, on a enlevé le monopole à Air Canada, on a enlevé le monopole au Canadien National, on a tout privatisé ces entreprises-là. Puis je pense que Poste Canada, c'est le dernier ou un des derniers monopoles à privatiser. Ou au moins, si c'est pas privatisé, c'est d'introduire la concurrence.
Effectivement.
Alors, actuellement, il y en a de la concurrence à Poste Canada, sauf qu'il est encore illégal. Je pense que la loi dit que une pièce de courrier qui a moins que 500 grammes.
Ben ouais,
encore, mais ça n'a pas même de bon sens. Évidemment, on va toujours argumenter que ben là, s'il y a de la concurrence, le petit village à Saint-Clinclin n'aura plus les services de la poste. Mais ça, c'est un argument qui est plus ou moins vrai. D'abord, Il y a des dépanneurs partout, même à Saint-Clinclin, alors que donc on aurait pu penser que parce que c'est petit, il n'y a pas de dépanneur. Alors donc, l'offre puis la demande fait que on va trouver une façon de livrer le courrier. Ça serait peut-être pas à tous les jours, ça va peut-être être tous les deux jours, trois jours, ça va peut-être être d'une autre façon. Mais alors donc, s'il y a de la demande normalement et qu'il y a un marché libre, l'offre devrait normalement arriver à offrir le service.
Ils vont toujours réussir, par contre, à faire peur au monde, là, dire « ouais, on n'a pas d'allure ». Comme un peu comme dans la petite maison dans la prairie, là, la petite dame qui avait le magasin général, elle ouvrait les lettres, c'était privé, ouais. Là, donc
dans le système politique qu'on a, il y a des gens qui ont des intérêts à conserver leurs acquis. Alors donc, les gens qui ont réussi à obtenir des faveurs de l'État ou des rentes ou des bénéfices, eux, ils vont tout faire pour les garder. Nous, comme contribuables, de se faire enlever, disons, il y a 35 millions de Canadiens, si on se fait enlever 1$ par année par le gouvernement, il n'y a personne qui va prendre une pancarte et qui va aller faire une démonstration sur le boulevard René Lévesque. Sauf que le gars, lui, qui ramasse le 35 millions qui a été enlevé à tout le monde, lui, tu peux être sûr qu'il va s'assurer que le bon politicien est élu.
Ah oui, tout à fait.
Et que si jamais il se fait enlever son temps, lui, s'il se fait enlever son 35 millions, il va faire une démonstration, lui ou c'est les gens qui le reçoivent. Alors donc, c'est un système politique qui on comprend assez facilement que les groupes d'intérêt ont beaucoup de pouvoir et donc il faut être capable de convaincre la population qu'en bout de piste, oui, c'est vrai qu'il y a des groupes d'intérêt qui vont perdre des avantages, mais par contre, toute la société québécoise va en profiter.
Oui, c'est exact. Ça.
Puis vous prônez quoi? Vous prônez vraiment que la société d'État continue d'exister, mais qu'on lui ajoute des compétiteurs ou carrément de laisser le marché s'occuper de tout?
Moi, je pense que c'est deux choses différentes. D'avoir une société d'État, tu peux avoir des sociétés d'État qui n'ont pas des monopoles et tu peux avoir des sociétés privées qui ont des monopoles. Et d'abord et avant tout, moi, je pense qu'il faut éviter les monopoles, que ce soit, disons, prenons l'exemple de, dans le temps que
Bell Canada
avait le monopole sur l'interurbain et que ça coûtait 3$ la minute, puis quand c'était un interurbain, on paniquait, puis vite, on parle vite parce que ça coûte cher, alors qu'aujourd'hui, c'est 2 cents de la minute ou je sais pas trop quoi. Alors donc, il faut, un monopole privé, c'est pas mieux, c'est pas peut-être même pire qu'un monopole public. Donc, d'abord et avant tout, éviter les monopoles. Puis ensuite de ça, la question suivante, c'est pourquoi est-ce que l'État est là-dedans? Qu'est-ce que l'État a à faire à vendre de la bière ou du vin ou des tickets de loterie? Ça, c'est une autre question. Mais moi, je suis contre ça aussi, parce que je pense pas que c'est le rôle de l'État. Mais pour le contribuable ou pour le consommateur, lui, ce qu'il veut avoir, c'est de la concurrence pour faire baisser les prix puis améliorer la qualité des produits.
Puis lors du congrès, je pense qu'on parlait surtout de la SAQ et d'Hydro-Québec. Je pense une partie d'Hydro-Québec, puis la SAQ, je pense, a été acceptée comme étant que si on pouvait la privatiser carrément, je pense que c'est ça qui est passé lors du congrès.
En fait, c'est pas tout à fait ça. Dans le cas d'Hydro-Québec, il y avait 3 propositions. La première, c'était la question de la construction des nouvelles centrales hydroélectriques. Alors, ce qu'on disait, c'est qu'on a comparé les coûts de construction des centrales hydroélectriques que Hydro-Québec construit avec le coût des centrales hydroélectriques qui ont été construites par des producteurs privés à l'extérieur du Québec. En passant, ce sont des producteurs privés québécois qu'on a regardé. Donc, des sociétés comme Fortis ou comme Innergex ou donc des sociétés québécoises qui ont construit des barrages à l'extérieur du Québec, donc en Ontario ou en Colombie-Britannique. Et ce qu'on constate, c'est que il y a un écart de coûts faramineux entre les coûts des centrales construites par Hydro et celles qui sont construites par les entreprises privées. On parle là d'une différence de 30-40%. Alors donc, ce qu'on a dit, c'est que dans le cas de la construction de barrages, pourquoi est-ce qu'on devrait donner le monopole à Hydro-Québec sur la construction des barrages? On devrait confier, on devrait faire des espèces d'appels d'offres pour favoriser la concurrence entre Hydro-Québec production et les producteurs privés dans la construction de nouvelles centrales hydroélectriques. Et on pense que À moyen terme, cette approche-là pourrait sauver 600 millions de dollars par année à Hydro-Québec. Alors ça, c'était la première proposition qui a été acceptée. Et l'autre proposition qui a été acceptée, c'est de dire qu'on devrait gérer Hydro-Québec sur un modèle différent du modèle actuel. Alors, actuellement, la Régie de l'énergie gouverne ou gère Hydro-Québec sur la base des coûts. Donc, si tu as 1 $ de coût, on va te donner 1,10 $ de revenus pour que tu puisses faire un profit de 10 sous. Alors, donc, ça n'encourage pas beaucoup Hydro-Québec à être efficace parce que si ses coûts augmentent à 1,20 $, bien là, ils vont aller voir la régie puis ils vont dire, bien là, on a 20 cents de plus de coûts, donc on voudrait charger aux clients 1,30 $, par exemple. Et ça, c'était l'ancienne façon de réglementer. Et moi, quand j'étais en câble ou distribution, j'avais un peu le même modèle. Alors, donc, j'avais aucun incitatif à gérer, là, serré. Sauf qu'à un certain point, en câble ou distribution, le CRTC a dit, là, on change la façon de gérer et dorénavant, Adrien, on va te donner seulement la moitié de l'inflation comme augmentation de revenus. Puis, si tu veux faire de l'argent, mais il faut que tu gères tes coûts. Ben là, on m'a dit, en affaire, on ne gérerait plus de la même façon.
Ah oui,
donc, ce qu'on dit, c'est que pour Hydro-Québec, ça va être la même chose. On va te donner quelque chose comme la moitié de l'inflation, donc, disons, 1 % d'augmentation. Puis, si tu veux augmenter tes profits, ben gère plus serré. Alors, donc, ça, c'était aussi une proposition qui a été acceptée. Par contre, la proposition qui a été refusée, c'est qu'on voulait privatiser à long terme la filiale de Hydro-Québec qui fait le transport de l'énergie, donc les lignes à haute tension. Et ça, c'était pour deux raisons. La première raison, c'était que on pense que Hydro-Québec est un peu en conflit d'intérêts parce que le réseau de distribution, le plus gros client du réseau de distribution, c'est Hydro-Québec Production, donc les barrages. Mais il y a aussi d'autres clients qui utilisent le réseau de distribution, à peu près 15 % du réseau de distribution. Et ces clients-là, évidemment, quand ils veulent avoir de la capacité de transport sur le réseau de distribution, ils se font dire par Hydro-Québec, « Ah, c'est dommage, nos fils sont pleins, on n'a plus de capacité. » Alors qu'on n'est pas trop sûr que c'est vrai. Alors donc, ils peuvent bloquer les concurrents. Et donc, on voulait enlever ce problème-là de conflit d'intérêts en privatisant Hydro-Québec distribution, donc Transénergie. Et ça aurait eu l'avantage de nous conformer à la réglementation internationale et ça aurait aussi, ça nous aurait permis de sauver probablement une couple de milliards d'intérêts par année à terme. Mais bon, alors évidemment, on sait qu'Hydro-Québec est une espèce d'icône ou une idole dans l'imaginaire des Québécois et donc cette proposition a été rejetée. Et je trouve ça assez amusant qu'à peine deux semaines après, dans les journaux, on parle de l'inefficacité de Hydro au niveau des contrats qui ont été alloués, les contrats d'informatique. Alors donc, je pense que celle-là, on va la retravailler, puis on va trouver peut-être une autre approche là pour s'assurer que s'il y a des constructeurs qui construisent des barrages, on veut s'assurer que ces gens-là puissent avoir une façon de transporter leur électricité s'ils veulent l'exporter aux États-Unis.
Okay. Et pour, vous avez parlé aussi de la formule PPP. On voit cette semaine, on a inauguré le pont de l'autoroute 25 avec un assez bon succès. Est-ce que ça vous conforte dans vos idées de voir que ça a été une belle réussite?
Oui, je pense que les PPP, alors ça, c'est une position qu'on a demandé de retourner à la commission. Je pense que l'inquiétude, c'est que c'est pas nécessairement tous les PPP qui sont appropriés. Alors donc, je pense que c'était ça un peu le point qu'on veut que la commission travaille, là. Est-ce que c'est tous les projets d'infrastructure qui devraient être en PPP ou est-ce que c'est seulement certains des projets? Alors, je pense que c'est ça la préoccupation qu'il y avait de ce côté-là. Mais je pense qu'en général, les membres de l'ADQ comprennent que dans beaucoup de cas, les PPP ont l'avantage d'aligner les intérêts de tout le monde vers la réussite du projet, alors que quand tu n'es pas en PPP, les intérêts sont un peu divergents. Je pense que ça, il faut qu'on la retravaille, mais disons que ça, on accepte ça, puis on va aller refaire nos devoirs là-dessus. Dans les autres sociétés d'État dont on a parlé de la SAQ. Encore une fois, il n'a pas été question de privatiser la SAQ, mais il a été question de simplement dire que les vins qui sont produits ou embouteillés au Québec, actuellement, ils sont vendus, ou certains d'entre eux sont vendus en épicerie, mais il faut qu'ils soient vendus au même prix qu'à la SAQ. Alors donc, si on achète on va acheter du vin au dépanneur, ou bien on l'achète dans une succursale de la SAQ, c'est le même prix. Alors que on sait pertinemment que les métros et les Provigo de ce monde sont beaucoup plus efficaces et productifs pour distribuer les produits à moindre coût. Les coûts d'administration de métro et de Provigo sont beaucoup plus bas, sont la moitié de ceux de la Société des alcools. Alors, ce qu'on a proposé, c'est que on puisse vendre n'importe quel vin qui est produit en bouteillé ici au Québec dans n'importe quel réseau de distribution, et pas au prix de la régie, mais à un prix, ou pas au prix de la SAQ, mais à un prix déterminé par Métro ou par Provigo. Et ça, ça a été accepté. Et l'autre société d'État dont on a parlé, c'est l'Auto-Québec. Alors, encore une fois, quand on compare la productivité de l'Auto-Québec, les coûts, tout ça, c'est beaucoup plus élevé qu'ailleurs. Et cette fois-ci, on s'est inspiré du modèle anglais. Alors, en Angleterre, on avait une société un peu comme l'Auto-Québec et on est allé en appel de proposition pour chercher un gestionnaire pour gérer la loterie en Angleterre. Et, surprise, ce sont les fonctionnaires de la Société d'État de l'Angleterre qui ont gagné l'appel d'offres. Okay. Alors, ils ont gagné l'appel d'offres et ils ont eu un contrat de 5 ans où ils ont réussi à baisser les coûts, à augmenter la productivité, et ce contrat-là a été renouvelé 2 fois par la suite. Alors, ce qui est bien intéressant ici, c'est que les syndiqués, ces employés-là de l'État ont gagné contre le privé. Pourquoi? Parce que, d'abord, un, ils savent mieux que n'importe qui comment fonctionne l'entreprise, et souvent, ils connaissent très bien où sont les inefficacités, mais ils n'ont pas les incitatifs pour bien gérer, parce que ça appartient à personne. Et là, si ça leur appartient à eux, tu peux être sûr qu'ils vont s'enligner comme faux. Alors, donc, c'est un peu la même chose qu'on proposait ici, c'est de dire, ben, ouvrons ça à la concurrence, disons, OK, on va demander à quelqu'un, à des gens de venir gérer ça, et si l'Auto-Québec gagne l'appel d'offres, ben tant mieux.
Mais c'est vrai que c'est un modèle, puis d'ailleurs, on en discutait la semaine passée, justement, le poids que ça peut faire de justement laisser participer la population ou soit les membres de syndicats, justement, qui occupent déjà les fonctions, puis d'avoir une appartenance par rapport à des sociétés d'État, c'est quand même puissant. Là. On le sait qu'à travers le monde, ça fait en sorte que les entreprises ou les sociétés d'État deviennent de plus en plus performantes.
Absolument. Et le modèle, un des modèles qui vaut vraiment la peine de regarder, c'est ce que le maire Stephen Goldsmith a fait à Indianapolis dans les années 90. Lui est arrivé là et il voulait trouver une façon là, d'améliorer la gestion et avait pensé à des privatisations. Mais finalement, plutôt que d'aller à des privatisations, il est allé voir les employés d'État et il a dit, écoutez, dorénavant, vous allez être obligé de soumissionner pour avoir les contrats. Soumissionner contre le privé. Et à son grand étonnement, la plupart des contrats ont été gagnés par les fonctionnaires eux-mêmes. Alors donc, on dit pas... Les fonctionnaires, ce sont des gens intelligents. Ce sont des gens qui connaissent leur business. Mais il faut simplement leur donner les bons incitatifs, les récompenser s'ils sont plus productifs. Et il n'y a rien comme de leur donner la propriété de ces entreprises-là ou leur donner un incitatif pour qu'ils soient productifs.
Tout à fait, puis je pense que c'est un modèle. En tout cas, moi, j'y crois beaucoup. Il y a une question que je veux vous poser, M. Pouliot, c'est par rapport à votre implication, parce que vous êtes très impliqué dans diverses entreprises, puis je sais que vous êtes encore actif, je pense, au niveau de la société d'investissement Capital Draco.
Oui, c'est exact.
Et de Corporation, je ne sais pas si je l'ai Image Entertainment, c'est en anglais.
Ça, c'est une des entreprises. Je n'ai pas vraiment d'intérêt économique non. Dans cette entreprise-là. Je suis simplement président
du CERN. OK. Et avez-vous d'autres fonctions dans le milieu privé?
Dans le milieu privé, la compagnie Capital Draco a plusieurs investissements. Alors, donc, je suis impliqué dans différents domaines. Et je suis sur des conseils d'administration, par exemple, des fonds d'investissement dans des nouvelles technologies, alors des trucs comme ça. Là.
OK, donc vous êtes... Puis vous avez passé, vous avez fait un bon nombre d'années à l'Institut économique de Montréal aussi.
Oui, alors ça, j'ai... dans ma carrière d'affaires, évidemment, ben, j'ai été président de CFCF, c'était une entreprise familiale, TQS, qu'on a vendue, et ensuite de ça, entourage solutions technologiques. Et au niveau, disons, des politiques publiques, c'est un peu à l'origine de mon parcours à l'Action démocratique, j'ai été administrateur fondateur de l'Institut économique de Montréal à la fin des années 90,
ouais,
et j'ai été sur le conseil pendant 12 ans.
Donc, vous avez un volet financier très fort, j'imagine?
Bon, je suis pas un expert en finance, je suis un gestionnaire d'entreprise. Mmh. Alors c'est sûr qu'il faut qu'on connaisse un peu la finance quand on fait ça.
Ouais.
Disons que dans les politiques publiques, ben c'est pas seulement la finance, hein, ça touche toutes sortes de choses.
Puis justement, quel a été votre regard, parce que dans toutes les propositions, est-ce qu'il y en a une qui était, puis j'imagine peut-être plus qu'une, par rapport aux ressources naturelles? Parce que, bon, on sait qu'il faut apporter des revenus à l'État. On parle beaucoup de ressources naturelles au Québec, que ce soit des deux côtés de la clôture, là, pour ceux qui veulent protéger l'environnement ou ceux qui veulent l'exploiter davantage. Est-ce qu'il y a eu des propositions en ce sens-là pour positionner l'ADQ de façon formelle sur l'échiquier?
Oui, est-ce qu'on a on avait une ou deux propositions au niveau du développement durable, dont une était d'établir des redevances compétitives sur les ressources naturelles. Alors on a des vastes ressources naturelles au Québec, on veut les exploiter. Je pense que on est en faveur du développement, mais on veut s'assurer là que les Québécois bénéficient de l'exploitation de ces ressources naturelles-là, et on veut tout simplement s'assurer que on a un bon régime de redevance. Il faut faire attention, c'est un régime de redevance, faire bien attention parce qu'il y a d'autres juridictions qui ont aussi des ressources naturelles, donc il faut que ça soit compétitif. Une des ressources naturelles la plus importante qu'on a évidemment au Québec, c'est l'électricité. Il faut s'assurer qu'on vend l'électricité, qu'on ne donne pas l'électricité, mais qu'on la vend à un prix qui a du bon sens.
Oui, alors,
et là, il y a toute une question de savoir comment, à quel prix est-ce qu'on devrait vendre l'électricité. Prenons le plan Nord, par exemple. Bon, alors, on a parlé du fait que les entreprises minières vont avoir besoin de beaucoup d'électricité. Alors, d'une part, on va les subventionner pour qu'ils aillent là. Ensuite, on va leur donner, ils vont payer des redevances, mais ils vont avoir l'électricité probablement au tarif L. Donc, c'est comme des subventions négatives. Alors, tu sais, ce qu'on dit, c'est que la ressource naturelle la plus importante qu'on a, c'est l'électricité. Puis, il faudrait vraiment regarder à quel prix est-ce qu'on la vend ou est-ce qu'on la donne, tu sais.
En terminant, parce qu'on ne veut pas vous retenir plus longtemps, est-ce que vous êtes déçu un peu de la couverture médiatique parce que vous êtes issu du monde des médias? J'imagine que ça vous préoccupe constamment, parce qu'on le sait, il y a eu beaucoup de discussions dans les médias, et j'en fais mention parce que quand j'ai voulu chercher un peu d'informations sur le congrès, en fin de compte, je me suis rendu compte que sur les filières de presse, je dirais qu'une fois sur deux ou quasiment deux fois sur deux, je tombais sur des articles concernant le rapprochement entre la coalition pour l'avenir du Québec de François Legault et l'ADQ. Est-ce que ça vous a déçu un peu en termes de couverture? Parce que j'imagine que ça l'a noyé un peu peut-être tout le reste du propos que vous avez eu ce week-end-là.
Ben, disons que ça ne m'a pas surpris parce que, c'est sûr que les médias cherchent la nouvelle. Hein, alors, Il y a deux choses dont on a parlé beaucoup, le truc de la coalition, et ça c'est intéressant parce que vraiment sur le plancher, moi, on n'a presque pas entendu parler. Il y avait un peu de, je pense...
Un buzz autour de ça, là,
ouais,
des médias.
Un buzz vraiment sur le plancher. Puis l'autre chose dont on a parlé beaucoup aussi, c'est toute la question de la présumée attaque de l'ADQ contre les syndicats, alors que c'était pas du tout ça. C'est moi qui ai rédigé ces propositions-là, les trois propositions sur le droit du travail. L'objectif, c'était de protéger les droits et libertés des travailleurs syndiqués en leur permettant d'avoir plus de transparence syndicale, plus de démocratie syndicale, et un peu de contrôle sur les cotisations obligatoires qu'ils doivent verser à cause de la formule RAND. Ce qui est intéressant, c'est que même en conférence de presse, après l'avoir expliqué en long et en large, et après avoir cru que les journalistes avaient compris, tu ouvres le journal le lendemain, puis c'est pas tout à fait ça que tu avais dit. Mais je suis pas vraiment surpris parce que dans ma carrière de 25 ans en affaires, quand on m'a cité, c'était jamais correct. Alors donc, j'assume jamais que quand je lis des citations d'autres personnes, j'assume pas que ces citations-là sont correctes non plus.
Ben, c'est des paroles sages, puis on invite les gens, surtout l'auditoire, à capter ce que vous venez de dire, parce que faut pas non plus toujours. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens au Québec maintenant qui comprennent ce jeu médiatique, mais c'est très intéressant que vous le mentionniez, parce que des fois, j'imagine, de l'intérieur, ça crée de nombreuses déceptions là, de voir qu'on est mal cité comme ça, et des fois de façon volontaire. Je pense que c'est plate, parce que en fin de compte, c'est celui qui en paie le prix. C'est monsieur, madame, tout le monde à la maison qui n'a pas l'heure juste et qui peut difficilement se positionner.
Oui, mais vous savez, il y a de plus en plus de médias. Vous êtes un bon exemple de ça. Les réseaux sociaux. Alors, ça devient de plus en plus facile de rejoindre les gens directement, de ne pas avoir le filtre des médias conventionnels ou traditionnels. Et ça, c'est un avantage immense qu'on a maintenant.
Fait que j'imagine que dans le futur, la DQ va se tourner vers ces plateformes comme les partis politiques l'ont fait peut-être aux dernières élections, aux élections fédérales. Donc, on a vu que les plateformes web ont été utilisées et surutilisées.
Oui, je pense que oui, c'est clairement une direction qu'il faut que l'Action démocratique utilise et que les autres partis vont sans doute utiliser plus. Moi, je pense que c'est à l'avantage des électeurs.
Bon, ben c'est parfait. Je vous remercie beaucoup, M. Pouliot, et on va vous souhaiter bonne chance pour la continuité des choses et prochainement, sûrement des élections et bon, un programme de l'ADQ renouvelé. Parce que petit commentaire, j'ai vu que sur le site, on retrouve encore l'ancien programme avec Mario Dumont.
Ah ben on va peut-être en changer ça.
Ouais. Ben merci.
Ben, merci beaucoup. Merci.
Bonne soirée.
Bonne soirée, au revoir.
Donc, c'était M. Adrien Pouliot. Donc, vice-président de la commission politique de l'ADQ, chic type. Et d'ailleurs, nous, on l'a rencontré au Réseau Liberté Québec. Il est venu à notre kiosque et en fin de journée, ils ont fait une allocution l'ADQ.
Oui, avec Claude Garcia.
C'est ça. Donc, très intéressant le discours, justement, qui rallie un peu une position. Et j'aime ce en anglais, on dit le wording, là, tu sais, de justement moins d'État, comme on disait tantôt. Là,
pour mieux gouverner.
Oui, la thématique reposait plus sur des valeurs qu'on retrouve, bon, qu'on dira à droite, mais qui sont plus des valeurs philosophiques, là, la responsabilité, la liberté, le moins d'État, le pouvoir, aux gens qui travaillent au sein de ces sociétés d'État-là, monsieur, madame, tout le monde, qui même dans son quotidien a sa propre entreprise, qui est beaucoup plus libre, moins imposée, moins taxée, donc libre marché. C'est vers ça qu'il faut s'en aller, la liberté.
Moins de mots, plus d'action.
Effectivement. Et on espère que l'ADQ va amener ces idées-là dans un programme et les défendre dans une prochaine campagne. D'ailleurs, de l'autre côté de la pause, moi et Danny, on va faire une petite analyse de l'offre qu'on nous offre, justement, L'offre qu'on a,
dit tout.
C'est ça, au niveau des partis qu'on dira de droite, l'ADQ et le Parti conservateur. On va regarder ça un peu ensemble pour en tant que citoyens aguerris qui sont des défenseurs de la liberté et de la responsabilisation. Est-ce qu'on est bien servi?
Exact.
Moins bien. Donc, on se retrouve de l'autre côté à connaître la suite sur les ondes du XM156 et du radiochoc.fm.
Someone that is beyond the ground. That's just it around.
On est de retour. Moi puis Danny, on est en train de se dire qu'on est des gars d'engagement. On s'était engagé pour 30 minutes. On a livré 30 minutes. On en aurait fait plus.
On a fait plus que ça.
Mais
on a fait 45.
On a fait 45 minutes.
On avait une entente avec M. Pouliot. Ouais, 30 ça. Minutes, on a dépassé un peu. Mais on a plein de sujets là, qu'on aurait voulu toucher. Mais c'est pour ça qu'on va profiter de,
oui.
du fait de... On va le faire nous-mêmes puis on va agir en... En deux gars qui suivent la politique de loin.
Oui, de loin, de très loin.
Ouais. Je pense qu'on a un peu la même philosophie là-dessus. On veut pas être membre d'un parti. En tout cas, moi, en tout cas, le moins possible. Là, je veux pas être accusé de partisan. J'aime regarder les choses de l'extérieur.
Ouais.
Je sais pas toi, là.
Ben, c'est parce que je me demande si au Québec, on est prêt à avoir un dialogue raisonné quand on a justement une étiquette. On...
Bien sûr.
Puis l'étiquette, moi, j'haïs dans ma vie avoir des étiquettes pour à peu près tout. Parce que justement, je trouve que ça limite. Hein. Les gens tombent dans un paradigme, puis là, on se ferme là sur bien des horizons. Puis à quelque part, et peut-être c'est parce que j'ai pas l'offre politique, et c'est là qu'on va débattre un peu de la question. C'est peut-être parce que je me retrouve pas non plus. Malgré que ça passe assez proche. La DQ a failli me rallier là en 2007 ouais. là. Je veux dire, c'était comme un match de hockey comme ce soir là. C'était intense et on pouvait l'émotion était là. Et c'est peut-être justement l'émotion qui était peut-être pas le bon sentiment à avoir. Est-ce qu'on peut avoir de l'émotion en politique? Ouais. Est-ce qu'on peut y aller avec notre cœur? On doit y aller avec notre tête. Moi, je suis plus avec l'optique notre tête. Mais est-ce qu'on peut retrouver aussi un parti politique qui nous convient en totalité?
Ouais. Ben c'est ça, ça tombe en passant 0-0 après une période pour le match. C'est de voir, là, des fois on en voit, surtout maintenant avec les médias sociaux, on peut les voir, là, les partisans purs et durs, peu importe du parti, là, que même si quelqu'un d'un autre parti offre quelque chose de valable, c'est jamais bon. Puis tout ce que ton propre parti offre, c'est toujours bon. Moi, j'ai bien la misère, je me dis « Hey, là, faut avoir un peu d'esprit critique dans la vie. » Puis moi, j'ai été d'un que, justement, tu parlais de 2007, puis mettons que l'offre politique, elle se rapprochait beaucoup de ce que je voulais pour l'époque, en 2007, puis tout ça. J'étais un des premiers, peut-être, dans ma gang à être déçu de voir la DQ en train de baisser. Je me disais, ils ont fait des gaffes, peut-être, dans certaines, surtout en début d'opposition, mais... On dirait que la DQ, après l'élection de 2007, ils ont été comme perçus. On aurait dit que le monde les traitait comme s'ils étaient au pouvoir. Tu sais.
Effectivement,
ils étaient très sévèrement jugés. Mais là, tu dis, hey, ils sont dans l'opposition. Tu sais.
Mais ça l'a brassé là, l'establishment au Québec, qui a été des bons nombres d'années à avoir cette dualité-là, bleu et rouge. Puis là, la DQ avait un peu chambardé le paysage. Je peux comprendre que certaines personnes ont peut-être tiré fort.
Mais c'était des adéquistes que je parle. Là.
Ah, toi, tu parles des adéquistes.
Des adéquistes eux-mêmes. Là.
Ah, ouais.
Les gens qui avaient voté pour être de la DQ.
Très
rapidement, moi, je me rappelle là, très bien d'avoir dit à des gens là, à la radio, « Calmez-vous, là, ils viennent d'être élus. Ils sont pas au pouvoir. » Ils étaient traités comme s'ils étaient au pouvoir.
Ah,
je trouvais ça décevant.
Okay.
Finalement, regarde, ça a donné quoi? 18 mois plus tard, ils sont tombés à quasiment pas 8-7 députés. Ça a été assez drastique comme réaction. Moi, j'en revenais pas dans un sens. Je me disais, moi, personnellement, c'était encore le parti qui était le plus proche de ce que je voulais.
Ouais.
Parce qu'il y avait personne qui était aussi, qui parlait autant de réingénierie de l'État. Là. C'est supposé être les libéraux, mais ça n'a jamais été le cas. T'sais. Mais j'avais été déçu de la réaction puis de tout ça. Moi, présentement, là, on voit qu'il y a une certaine partie des gens qui sont en train de retrouver la DQ qu'ils aimeraient avoir.
Ben, il y a un petit renouveau.
Moi, je le trouve plus timide que je pense que la majorité des gens, le petit renouveau, parce que moi, je regarde ce qui se dit puis ce qui se vote à l'Assemblée nationale, puis je suis très déçu de la façon que la DQ vote à l'Assemblée nationale. c'est, t'entends le on en parlait avant l'émission, le Gérard Deltel enflammé, qui a l'air d'un gars vraiment de centre-droit, et tu regardes les votes à des kisses lorsqu'il y a des projets de loi ou des choses comme ça, et là tu te dis, il est où le discours dans la façon que vous votez à l'Assemblée nationale? Exemple, un des exemples, c'est le fait qu'on a donné à Bombardier le projet des métros de Montréal, même si on payait 1 million de plus du wagon. Tu dis, ça, c'est pas à des kisses d'approuver ça.
Ouais, effectivement.
C'est pas à des kisses. Là, cette semaine ou dans les dernières semaines, c'est quoi? C'est que là, on a commencé à reparler des compteurs intelligents qui seraient détruits au Québec. Et là, la réaction de la DQ, c'est une réaction de protectionnisme. Donc, ça prend ça prenait des compteurs made in Québec et tout ça. Moi, c'est pas comme ça que je vois ça. Moi, je vois de la libre concurrence qui fait qu'on va les payer pour la meilleure qualité, le moins cher possible. Là, c'est du protectionnisme. Moi, j'embarque pas là-dedans. Donc, j'ai encore beaucoup de... On dirait que j'ai plus de bémols à DQ par rapport à leur dichotomie maintenant que j'en avais pendant que les autres débarquaient en 2007-2008. Ouais. Moi, je demeurais là. Donc, je sais pas comment tu vois ça, mais moi, j'aimerais que les
votes soient... Mais je te disais que c'est... Tu sais, il y a deux choses. Il y a le militantisme, puis il y a effectivement la députation là qu'il peut y avoir en chambre qui, effectivement, peut-être dans bien des cas, colle pas.
C'est ça.
Mais c'est-tu parce que les députés, une fois dans l'appareil, puis une fois dans le système, en oublient peut-être l'essence même du militantisme derrière eux?
Je sais pas.
Mais parce que les paroles sont assez dures. Quand on voit les congrès là, mm-hmm. nationaux comme ça, là, où il y a des propositions, c'est assez tranchant. Là. Mm-hmm. Puis c'est assez c'est blanc ou noir assez souvent. Mais en chambre, comme tu dis, des fois, c'est plus nuancé. Tu dis, ah, puis là, tu l'as dit tout à l'heure, tu dis, ah, mais ça aurait été adéquiste de voter, exemple, contre le projet de loi pour favoriser Bombardier. Mais en même temps, ben là, il y a peut-être d'autres considérations politiques derrière tout ça. Il n'y a pas juste peut-être l'aspect libre marché, concurrence, gain au niveau de monsieur, madame, tout le monde pour l'acquisition. Il y a peut-être un volet, puis là, c'est là que tu tombes dans les guerres intestines entre partis politiques, où là, pour ne pas faire plaisir aux partis adverses, tu votes contre parce que t'es contre parce que t'es pas de la même équipe.
Mm-hmm. Mais en même temps, mettons que la DQ aurait voté contre le métro de Montréal qui est donné à Bombardier, mm-hmm. sans appel d'offre, là. On le sait que le projet passerait pareil parce qu'ils sont minoritaires.
C'est sûr. Mais toi, c'est la philosophie.
Moi, je me dis, justement. Garde ta philosophie, garde ce que t'es, puis vote en fonction de ce que t'es, là. Parce que moi, je sais pas, là. Moi, je trouve que si on me donnait un contrat.
Ben, toi, c'est l'intégrité, là, que tu.
Ben, c'est un peu ça. Parce que je me dis, si on me donnait un contrat sans que j'aille à me battre pour l'avoir, là, en guise de remerciement, là, je dirais, je vais te faire un bon prix. Mais, Bombardier, c'est pas ça qu'il a fait. En plus de dire, j'ai même pas besoin de me battre pour le contrat, je vous charge 1 million de plus, il est où le donnant là-dedans? Il aurait dû dire, je vais vous donner le juste prix, mais tout l'argent en lobbying que j'aurais plus besoin de faire, là, ben c'est de l'argent que j'ai pas besoin de dépenser. Il aurait peut-être pu baisser les coûts. Puis surtout que les métros, là, on peut le comparer pas avec un métro à Hong Kong, mettons.
Non, je suis d'accord.
Il se compare au métro de Toronto.
Ah oui.
Tu sais, c'est ici, c'est dans notre cour.
Ah oui, il n'y a pas d'évaluation de dollars, il n'y a pas de contrainte économique là, très complexe.
C'est ça, c'est pas une question de régionalité, rien.
Non.
Tu sais, puis M. Pouliot donnait un exemple, là. Il a pris des constructeurs québécois de barrages pour comparer avec les coûts d'Hydro-Québec. C'est le meilleur exemple pour ça. Tu sais, t'as la même philosophie, les mêmes contraintes de température, de climat, t'as le même type de machinerie. Et t'es capable d'arriver encore avec le fameux chiffre 30% qui est comme automatique au Québec. Tout coûte plus que 30%. Donc, on se pose.
C'est comme la contingence par défaut au Québec,
ça,
30%.
C'est incroyable. Je sais pas pourquoi il y a un si gros hasard dans le chiffre du 30 là, au Québec, mais... C'est un peu ça, moi, qui présentement me déçoit. J'avais d'autres exemples, mais là, je m'en souviens pas, j'aurais peut-être dû les écrire, mais il y a d'autres cas comme ça que la DQ a pas voté, selon moi, selon la philosophie qu'elle essaie de nous vendre. Donc là, je suis comme plus ambivalent là que lorsque en 2008.
Mais je te dirais que, sans dire que tu es un cas particulier, tu es quelqu'un qui s'intéresse, tu dis de très loin de la politique, mais ce genre de choses-là, tu le notes bien, puis tu le remarques. T'sais, c'est pas tout le monde qui a une attention particulière à savoir est-ce que le parti pour qui en qui j'ai mis ma confiance par mon vote a voté en fonction de mes principes. Il y il y a peu de gens qui vont aller vérifier ça. Hein. On s'entend que c'est pas d'un, c'est pas très sexy d'écouter la chaîne parlementaire et de regarder les votes en chambre. Puis si on regarde nos médias, et on en a parlé de la paresse des médias, on nous rapporte pas toujours non plus cette information-là.
Non, c'est ça,
et assez souvent, on est plus ou moins informé. Fait qu'il y a une grande partie des gens qui sont plus ou moins au courant de ce que tu dis là par rapport à l'intégrité de ta confiance, du discours par rapport au militantisme sur le terrain qui, lui, est assez blanc ou noir.
Mais encore là, c'est pas le militantisme en tant que tel, c'est ce que les chefs disent versus comment ils votent en chambre.
Oui, mais on s'entend que c'est des militants, à la base, qui ont mis ces gens-là en position. Tu sais, c'est à travers les congrès nationaux qu'on vote les chefs de parti puis que les propositions sont avancées. L'essence même d'un député vient de là, en partie.
Oui, dans un sens. Puis aussi, je comprends certaines gens qui disaient sur Twitter pendant ce week-end-là, ils disaient pourquoi il n'y a pas plus de monde qui sont proches du RLQ, qui sont présentement là-bas, puis tout ça. Moi, je me la pose la question, mais encore là, je veux pas être membre de rien. Tu sais.
Ouais.
J'essaie d'être le moins souvent membre de quelque chose pour garder tout. Je veux pas être étiqueté, premièrement. Même si le monde va dire ah ouais, on sait que tu es de centre-droit. Oui, cette étiquette-là, je l'accepte, mais je veux pas être étiqueté en tant que. Un fan de la DQ ou un fan du Parti conservateur.
Mais
c'est important pour moi. Ça me permet de garder toujours mon œil ouvert.
Ton côté rationnel.
Je pense que oui, tu sais, puis j'essaie de le faire dans à peu près tous les sujets, cette affaire-là, mais ça m'a agacé un petit peu.
Mais c'est la difficulté aussi. Tu sais, comment tu peux, puis t'as juste à penser que ce soit un parti politique ou des associations dans lesquelles t'as fait partie.
Mm-hmm.
Tu peux pas être à 100% d'accord non plus, tu sais, même avec le conseil d'administration, même avec ceux qui siègent là, qui à un moment donné ont pas le choix, faut qu'ils tranchent, hein. Puis c'est ce qu'ils font les députés en chambre là, ils ont un gros poids énorme là, ils sont peu, puis là ils se discutent de la question ensemble, sont quelques-uns autour de la table, là. Ils ont des conseillers, puis rapidement ils se positionnent, puis ultimement c'est oui ou c'est non, puis il y a 50% des chances de se tromper.
C'est ça, puis il se questionne plus sur c'est quoi le message qui va sortir que l'action en tant que telle.
Mais c'est là que je te dis que c'est cette game-là...
C'est ça qui est plate, puis tu sais, si nous, on cherche tant à avoir des partis politiques qui sont différents, pourquoi s'adapter aux pratiques des autres partis pour faire la game médiatique? Puis tu sais, Gérard Deltel, c'est un ancien journaliste, OK? Puis pas juste un ancien journaliste, un ancien journaliste à la colline, pas à la colline parlementaire, mais à l'Assemblée nationale. Moi, je m'étais dit, si ce gars-là était apprécié de sa gang, de gang de ses collègues journalistiques des autres médias, ça va bien passer. S'il était pas apprécié, ça va être le bordel. Puis de l'autre côté, je me disais, vu que M. Deltel, il a l'expérience médiatique, ces espèces de spins négatifs que les journalistes font sur la DQ, je me disais, peut-être que lui, il va dire, je les connais, ces gars-là, si on y va de même, ça va passer mieux, puis tout ça. Puis à date, je pense que c'est pas si pire. C'est pas si pire. Il se débrouille quand même bien, si c'est grâce à lui ou à cause de lui, je peux pas le dire. Mais je m'attendais à un petit peu mieux de ce côté-là. Je pensais peut-être que la manière que les messages se rendraient dans les médias serait un petit peu meilleure vu que M. Deltel a fait ça comme métier, puis je sais pas combien de temps, peut-être 5-6 ans pour TQS, là, il a fait de tout comme journaliste, là, mais vraiment à la colline.
Je comprends ton aspect, mais tu sais, du fait qu'il traverse l'autre côté de la barrière, sans dire un ennemi, là, mais pour les journalistes, il devient, tu sais, c'est des vautours. Là, donc
allez voir, parce que tu regardes comment Bernard Drinville est traité, lui, il a de free game, même si c'est un ancien journaliste là. Puis l'autre affaire, c'est qu'une semaine avant, justement, quand ça a été mis disponible, ce document-là, sur le site de la DQ, j'avais écrit sur mon Twitter, qu'est-ce que les journalistes vont trouver en fin de semaine pour faire déraper le congrès, et c'est arrivé. C'est justement, là, ça a été le talk of the town, ça a été la
coalition.
La fusion avec Legault, tout ça. Et je lisais les Twitter de gens qui étaient sur place, là, entre autres Fred Tétu, puis Yann Sénéchal était là. Et dans ce qu'il disait, c'est qu'on ne sent pas ça du tout sur le terrain, là-bas, sur le plancher à Trois-Rivières, là, on le sent pas. Cette frénésie d'avoir une fusion, là, on la sent pas. Pourtant, si on se fie aux médias, c'était le talk, tout le monde parlait que de ça. Il n'y avait pas des ateliers là, pendant le congrès. Là. Tout le monde était assis, puis ils discutaient pour ou contre Legault. Là. Si on se fie aux médias, c'était ça.
On sait où les médias sont hein, dans les congrès. Ils sont rarement dans l'action. T'sais.
C'est ça. Ils regardent les mémères. Là,
puis c'est ça. Ils pognent deux, trois personnes.
Dans les corridors.
Dans les corridors. C'est puis ça. À partir de certains discours, ils vont pondre. Là. Mais tout ça est emprunt quand même d'un cynisme parce que. Puis. Il était un moment dans mon existence que je ne croyais pas vraiment que l'appareil politique pouvait changer les choses parce que le défi était tellement important. Je me suis dit, il n'y a pas un politicien qui va vouloir le faire. Et d'un autre côté, je me dis, ben si on n'a pas, il y a personne qui s'implique là et qui militante pas pour les partis politiques. Demain matin, qui va prendre la relève et qui va propulser justement des partis politiques au pouvoir, qui va représenter bon ce que nous, moi, toi, on partage ensemble, puis qu'une grande partie de notre auditoire partage. Je me dis, ben quelque part, et du fait qu'on ne peut pas avoir l'unanimité, ben est-ce que je me colle quand même à un parti politique qui est le plus près de mes orientations, de mes choix? Versus aller vers les libéraux ou le Parti québécois. Même chose au niveau fédéral. Tu sais, à quelque part, je me dis, bon, rien n'est parfait, mais somme toute, est-ce que la note de passage, elle est là? Tu sais, puis je sais pas si on peut affirmer ce soir, est-ce que la DQ est en train de reconstruire sa base, le renouveau qu'on parlait, est-ce qu'on est en train de... Et avec, je pense, j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de gens qui deviennent militants. J'ai l'impression que le membership augmente. Là, ouais,
ça, faut le demander.
Je ne le sais pas, mais d'après moi, j'ai un sentiment que...
Ça se pourrait.
D'après moi, le creux de la vague, ils l'ont eu. Là. Le bas-fond, ils l'ont touché. J'ai l'impression que ça remonte. Tranquillement, pas vite, puis ils font des bonnes acquisitions. Ce soir, Adrien, quand on a parlé à M. Adrien Pouliot, je pense que c'est une bonne acquisition. Puis des gens comme ça, ils en ont de plus en plus. Je pense que ils ont à s'affirmer davantage. Tout à l'heure, on était peut-être un peu en désaccord par rapport à l'affirmation. Moi, je pense qu'un parti politique doit s'affirmer. En même temps, s'il s'affirme trop, ben des fois, on peut leur reprocher aussi. Je le sais pas. Tu sais, je suis un peu ambigu par rapport à ça. Je me dis, c'est la même affaire que Stephen Harper. Il y a des choses qu'il va faire que je suis plus ou moins d'accord. Mais comment je peux faire? Si j'ai un désaveu complet envers le Parti conservateur, j'avancerai pas plus ma cause. Je sais pas, je te pose la question, je le sais pas.
Mais on se pose, c'est ça, la réponse, on l'a pas vraiment.
On l'a pas vraiment, mais...
Mais je sais pas si tu te souviens, là, l'émission de radio qu'on a fait avant d'inventer Connaître la suite en 2009, c'était soit que je m'implique en politique, ou soit qu'on se bat à l'extérieur. Moi, je disais, moi, là, j'étais très proche de dire... Faut que j'y aille à l'EDQ pour aller dire, dans le fond, parce que moi, je prônais depuis 2007, je me disais, je sais pas si on arrivait 800 nouveaux membres à l'EDQ en même temps qui disaient à peu près tous la même affaire, dire, commencez pas à aller trop vers la gauche, à retourner pas trop au centre, tu sais. Puis la prémisse du show juste avant qu'on invente Connaître la suite en 2009, c'était ça. Toi, tu disais, non, c'est à l'extérieur que ça se fait d'après toi.
Mais là,
moi, c'était à l'intérieur, tu sais. On se posait la question. Moi, je me dis aujourd'hui plus qu'en 2009 que je veux rester à l'extérieur. Mais en même temps, comment faire pour influencer l'intérieur? Ben là, on le fait un peu en faisant connaître la suite sur une antenne qui se respecte, là, comparé à, à 2009 quand on l'avait commencé. Mais je pense que là, toi, en voyant ton nom verbal, là.
Mon fusil est en train de changer de
forme. Est en train de changer de.
Oui. OK. Ben, c'est parce que je me dis, puis écoute, pour moi, c'est. Je dois être honnête, là. J'ai pas participé de congrès, de partis politiques de toute ma carrière. Je sais pas si toi, t'en as fait
jamais,
de toute ma vie.
Jamais.
Et sans dire que j'ai. Je veux dire, c'était des expériences très enrichissantes et j'ai aimé un peu les dynamiques à travers les rencontres du réseau Liberté Québec. Je me dis, à quelque part, même en tant que simple citoyen, il y a moyen, en étant à l'intérieur de l'action, de justement peut-être propager ses idées, de les challenger, puis de voir justement à quel point la base du parti nous convient. Puis là, comme tu dis, si on est plusieurs à avoir ce discours-là, ben ultimement, sans que ça passe par moi-même ou par toi, puis qu'on devient des députés, Mm-hmm. Tu sais, puis il y en a qu'on dirait que justement, quand on leur dit la politique, ben c'est de devenir politicien. Non, tu sais.
Ouais,
c'est sûr. Tu sais, ça peut être on the side, puis on le sait, on connaît un peu la game. On a des gens dans notre entourage à travers l'émission de radio qu'on sait qui ont travaillé très fort en arrière de l'équipe de l'ADQ. Mm-hmm. Puis, tu sais, tu te rends compte que, ouais, Mario Dumont, oui, mais en arrière de lui, là, il y en avait une coupe, puis ces gens-là, aujourd'hui, ils font autre chose, mais à l'époque, ils s'étaient investis, puis, tu sais, c'était quasiment leur mot noir sur blanc, là, qui était dans certains programmes, là, tu sais. Donc, tu te dis que il y a moyen, puis le politicien est peut-être, oui, le front-end, là, comme on dit en anglais, là, celui qui fait partie de la façade, là, du front, mais en arrière, j'imagine qu'on peut s'impliquer, puis c'est pour ça que je me dis, ben c'est à peu près la dernière chance. Je sais pas, c'est parce que je trouve qu'à l'extérieur, ça avance pas peut-être assez rapidement à mon goût, c'est peut-être ça, je suis peut-être impatient. Puis je me dis que peut-être qu'à l'intérieur, on peut casser un peu plus la baraque, puis susciter un petit peu plus d'intérêt. Puis garde, toi comme moi, on a fait partie des événements du RLQ. C'est pas trop long que tu peux te retrouver au centre d'une dynamique puis de faire valoir tes idées. Là. Toi-même, t'en as expérimenté, t'es arrivé, puis dans une session de discussion, puis t'es arrivé avec tes points, puis là, tu te rends compte que les gens, c'est pas le côté végétariat, c'est pas dire « Ah ouais, hey, c'est le fun, j'ai eu un standing ». Non, 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 c'est pas ça, c'est de dire « Oh, regardons ça, j'avais mes points, je les ai dit, puis j'ai pas été reçu avec un bâton de baseball ». Là, les gens, sans m'applaudir, là, mais je veux dire, les gens ont sanctionné ce que j'ai dit, puis parce que, tu sais, puis ça, c'est un slogan qui est un peu poche, mais quand on le dit en réunion, là, dans notre quotidien, on le dit, il n'y a pas d'idée, tu sais, il n'y a jamais de mauvaise idée, puis si vous avez quelque chose à dire, dites-le. J'ai l'impression que c'est justement en s'impliquant dans ces parties-là, à la base, qu'on peut changer les choses en excusez l'expression, mais en faisant une corruption, tu sais, du mindset des gens, tu sais. Parce que peut-être que justement, t'es peut-être la personne plus ton compagnon de droite, ton compagnon de gauche qui va faire une influence considérable parce que on le sait, là, les congrès, regarde, on parlait là, de 350 personnes à l'ADQ, le 14 et 15 mai. Fait que 350 personnes, là, c'est pas trop long qu'à un moment donné, tu peux influencer ça. Là. 3 500, c'est autre chose, puis 35 000, puis 3 500 000, là, c'est un peu plus compliqué. Et c'est pour ça que je peux pas dire que je suis en désaccord, parce que ce soir, on fait une émission de radio, puis on espère qu'on vous contamine, comme vous autres, vous nous contaminez, comme nos invités nous contaminent, puis on espère qu'ensemble, on est en train de se corrompre par rapport à la droite, par rapport à la philosophie de droite. Mais des fois, j'ai l'impression que ça peut être sans lendemain. J'ai l'impression que c'est toujours à recommencer, semaine après semaine. Tandis que dans un parti politique, ben je me dis ultimement, ben tu vois le résultat de tes efforts, puis tu peux te retrouver au pouvoir. Puis là, orchestrer les fameux changements.
Ouais. Mais il y a une affaire, c'est ça. Il y a une affaire, par contre, il y a plusieurs personnes, on a vu ça dans les journaux, il y a eu certaines réactions lors du congrès de la DQ, c'est-à-dire, on n'est pas pour proposer ça, on se fera pas élire. Donc là, dans ce temps-là, on s'éloigne de notre philosophie. Ouais.
Mais c'est la game, hein?
Mais c'est ça, jusqu'à où?
Si mais là, faut que tu sois bien.
Si on est intègre.
Oui, mais faut que tu sois bon tacticien.
Oui, c'est ça. Mais si tu.
Mais ça, je sais que c'est pas toi, ça.
C'est-tu positif ou négatif de s'éloigner de ce qu'on est pour se faire élire?
Je comprends. Mais moi, je suis prêt à faire un petit peu plus de compromis. Sans dire s'éloigner, je suis prêt à faire un petit peu plus de compromis. Puis peut-être à faire. Tu sais, on dit une distorsion, là, ou une divergence des choses. Je sais pas. Je suis prêt à. Je suis pas prêt à vendre ma mère, là, tu sais. Puis je suis pas prêt à...
C'est comme avoir le diable d'un côté, puis l'ange de l'autre, là, puis il essaie de s'influencer.
C'est notre système qui est constitué comme ça. Puis on l'a dit, puis ça, j'attends le parti politique qui va faire vraiment une réforme. Tu sais, on dit la démocratie, on le sait que la démocratie, là, au Canada, là, puis au Québec, on peut repasser, là. Puis je comprends ton point de vue. Puis ça, je le sais que toi, là-dessus, t'es pas mal intransigeant.
Mais je vais te dire pourquoi.
Je te vois mal en politique, peut-être.
Ouais, mais je vais te dire pourquoi je suis intransigeant. Parce que moi, mon opinion là-dessus, c'est de dire on essaie de garder le cap sur notre philosophie. Et si, pour faire passer notre idée, si elle est, on est vraiment sûr qu'elle est bonne, c'est la pédagogie qui va la faire passer. C'est d'expliquer.
Mais on a-tu le temps?
Ben là, en fait, il y a deux semaines, là, ça, il y a à peu près 2 ans avant les prochaines élections provinciales,
ouais.
Un parti qui déciderait de dire, nous, on va faire de la pédagogie, là, on va essayer de trouver un moyen pour cesser d'être démonisé.
Oui, mais là, tu sais...
En étant centre-droit. Tu as 2 ans pour faire ça.
Tu pars avec une prise par rapport aux médias qui vont couvrir ton congrès. Après ça, ben là, tu vis avec tout l'historique, puis le problème que amène aussi le fait d'être dans un parti politique qui émet des propositions, comme tu disais tantôt, qui vont à l'encontre un peu des fois des philosophies de certaines personnes, puis là, on veut faire plaisir. Tu sais, à quelque part, j'ai l'impression que ça doit être, excusez l'expression, mais un calvaire.
Mm-hmm.
Tu sais, de faire ce que tu dis, là, c'est du missionariat.
Oui. Mais moi, là...
C'est de prêcher quasiment dans le désert.
Ben, moi, je trouve que on a le choix de prendre la voie facile puis de dire, bof, ça passera pas,
non.
On va changer notre idée, ou de dire,
non,
on va se retrouver les manches et on va l'expliquer, puis on va l'expliquer, puis on va l'expliquer.
Il y a les guet-apens aussi, tu sais, ça existe aussi. Tu sais, tu peux, si t'as une bonne tactique, là, t'es un bon tacticien, là, tu peux te retrouver à la tête du gouvernement, puis là, un coup que t'es là, là, regarde, tu fais un mandat de 4 ans, là, tu livres la marchandise, peu importe ce que dira l'opinion publique, puis tu y vas, à fond la caisse.
Donc, toi, tu dis, on devrait leur mentir jusqu'à temps qu'on arrive au pouvoir.
Je trouve ton résumé simpliste.
Je te fais parler.
Ben, mentir. Tu sais, cacher la vérité, ne pas dire la vérité. Je ne sais pas ce qu'est mentir vraiment pour toi. Là.
Mentir, c'est pas dire la vérité.
Ou ne pas le dire, tout court.
Pas le dire, c'est de faire, je sais pas, ça peut être abstraction. Plus manichéen que mensonger, mais bon.
Mais tu sais, tu comprends ce que je veux dire. Il y a une question de temps, là. Il y a une question de temps.
Mmh, on a 2 ans.
Oui, mais même à ça, 2 ans, c'est presque impensable, tu sais, surtout dans un parti politique. On prend l'exemple de l'ADQ.
2 ans pour un parti en montée, tu trouves que c'est insuffisant?
Je vais donner un exemple, puis j'ouvre la parenthèse. Puis... non, mais je vais donner un exemple.
Je veux pas répondre.
Non, mais je veux tester le modèle. Exemple, si une association avec la coalition pour l'avenir du Québec permet à l'ADQ de devenir le gouvernement.
OK. Là, tu me devances, Hugo.
Est-ce qu'on considère cette opportunité? Parce que ça devient une opportunité, là. Tu sais, c'est comme en affaires, là. Tu sais, en affaires, il y a des concurrents qui s'achètent, là, hein? Ça se fait,
ouais,
puis,
ça se fait quotidiennement, quasiment.
Et c'est, on le sait, l'accroissement d'une entreprise, c'est soit par accroissement interne ou par des acquisitions. Jean Legault. François Legault, là, je veux dire, pas obligé de le garder, là. T'sais, tu vois ce que je veux m'en venir, là, tu sais. Ou tu peux le garder, mais tu peux y donner un ministère, là, du loisir, là, tu sais. Non, mais tu comprends? Fait que je me dis, est-ce que c'est machiavélique? Mais profitons de la vague, peut-être, tu sais.
Toi, tu ferais quoi?
Je la ferais quasiment à la fusion.
Ouais?
Ouais.
OK.
Sur cet aspect-là.
Même si le gars, il répète encore, mais que les journalistes oublient de le dire, qu'il est de centre, il est de gauche.
Garde.
Gauche efficace.
Je veux pas utiliser le terme jaillir sur les ondes, là, mais cette personne-là n'accorde pas dans mes valeurs, OK?
Mm-hmm.
Puis les faunés, je sais pas, là, mais j'ai l'impression que ça en est un, tu sais.
OK.
Moi, quelqu'un qui joue, là, justement, au, tu sais, pas quasiment au preacher, là, moi, l'éducation, la santé, tu sais, puis là, avec toutes ces grandes préoccupations, là, ça me fait penser au Parti québécois, là, puis ça colle pas avec moi.
OK.
Moi, je parle de l'effervescence derrière le phénomène de cette coalition-là. Là, t'sais. Des gens qui sont prêts à donner le vote. On le sait au Québec, là, le vote à the taste of the month.
Mm-hmm. Flavor of the month.
Ouais, the flavor of the month, pas the taste. Et je me dis, est-ce qu'on en profite ou on n'en profite pas? T'sais, c'est l'opportunité qu'il faut. Mais
là, lui, il veut probablement être le chef.
Moi, je pense que là-dessus, là, encore là, c'est comme je te dis, avec des bons tacticiens, là, des bonnes ententes en coulisses. Là.
Donc, ben du papier sablé, rendre ça doux. Puis,
Non, mais tu sais, je me dis, si on veut accéder au pouvoir rapidement, avec une majorité, pas un foutu parti minoritaire qui va être obligé de négocier, qui va retomber en élection, c'est ce qui a coûté cher là, à l'ADQ. Là.
Mm.
C'est de retomber en élection pas longtemps après.
Mm.
Regarde, je suis peut-être un fan de... C'est quoi? Battleship. Non, non, mais ah ouais, puis, du poker, je bluffe peut-être trop. Mm-hmm. Je sais pas. Mm. Mais.
Toi, tu le ferais.
Ben, je le ferais, tu sais. Pas pour le go, comme je te dis.
Okay.
Pour avoir la sympathie populaire puis le vote qui vient avec.
Okay. Okay.
Sachant très bien que. Et je suis prêt à manipuler quasiment ceux qui sont pas de mes allégeances. Je vais te dire pourquoi. Parce que quand je me rends compte les dommages qu'on est en train de faire au Québec avec nos positions politiques, là, puis je fais référence aux élections fédérales, les dommages collatéraux qui vont être immenses, je me dis, ben, d'en manipuler 40% de la population pour, en fin de compte, faire passer des idées peut-être de 20%, 30% de la population, ben, garde, ça s'est déjà vu.
Mm-hmm.
On est-tu d'accord?
Mm-hmm.
On est-tu d'accord? On est-tu d'accord que les libéraux, ils en ont passé, hein? Mmh. Aux Québécois, un sapin.
Mais les Québécois.
Avec ses réingénieries de l'État, puis des cibles, des ça qu'ils n'ont jamais faites. Tu sais, c'est un peu ça aussi, là.
Ouais. Mais les Québécois, là, il y en a certains qui ressortent ça souvent, là. Ah, il a promis la réingénierie de l'État, mais il a été réélu deux fois depuis cette affirmation-là.
Ça a même affaire avec la maire Tremblant. Non, mais ça a même affaire avec la maire Tremblant à Montréal.
Aussi. Il est en plein scandale de corruption.
Ça a même affaire ici à Québec avec la maire Labeaume. Mmh. Les gens disent, oh, oui, c'est un détraqué, mais il donne 80% d'appui, tu sais. Mmh. Puis, non, mais c'est comme ça qu'on est.
Mmh.
Fait que je me dis, regarde, t'es aussi bien manipulé. Tu sais, puis là, je veux pas être disgracieux dans mon discours. Puis l'émission qu'on fait ici, c'est une émission très sérieuse. C'est pas une émission pour... Mais je me dis, est-ce que c'est de la manipulation? Est-ce que c'est machiavélique? Est-ce que c'est dangereux de faire ça? Mais je me dis, écoute, s'il y a une partie de la population sont assez zouf pour embarquer dans un bateau comme ça, puis donner le vote à peu près n'importe qui ou n'importe quoi, ben, on tourne bien d'en profiter parce que, avec ce vote-là, on va pouvoir changer le Québec de demain. Puis, en fin de compte, ils vont être aussi regagnants. Tu sais, je dis pas si ça serait pour les emmener plus loin dans leur déchéance, là. Mais en fin de compte, ils vont peut-être être gagnants, tu sais, sans même le savoir, tu sais.
Mm.
Non?
Peut-être. Mais à date, j'ai pas vraiment de proposition de Legault qui me fait dire que.
Ah non, mais comme je t'ai dit, oublie Legault, là.
Ouais, mais c'est ça. C'est avec Legault. Mais ils vont gagner les élections, mais selon les sondages actuels. On est à deux ans.
Il l'appellerait Berlingot. Il y a un paquet de jeunes dans la population qui... C'est juste parce que c'est nouveau. Puis là, ils savent que c'est une coalition qui brasse les affaires. Puis c'est du n'importe quoi, là. On est d'accord. Mm-hmm. Moi, je trouve pas que c'est une base intéressante, mais je me dis, si on peut faire...
Parce que mettons que ça se fait, c'est lui qui gagne dans le débat des idées, puis que ça devient... C'est vraiment un parti de gauche... On va avoir voté pour cette coalition-là pour rien. On se ramasse avec un quatrième parti de gauche au Québec.
Non, je suis d'accord. C'est pour ça que ça prend.
Donc c'est dangereux.
Ça prend une bonne. Non, c'est très dangereux. Ça, effectivement. Mais c'est dangereux. Ces plans-là, c'est des quittes au double.
Mm. Donc toi, tu te dis, vu qu'on le sait qu'avec les Québécois,
mais
ça marcherait.
Ça peut pas être mieux. Part de cette prémisse-là. Tu sais, je veux dire. C'est ça ou ben c'est encore les libéraux, ben encore le Parti québécois.
Mm.
Parce qu'on s'entend, là. C'est eux autres qui vont avoir le vote.
Mm. Ah oui. Donc, fait dans ce sens-là...
Puis même Legault tout seul peut quasiment passer.
OK. Donc c'est anything but PLQ, PQ justifie qu'on pourrait accepter ça.
Mm.
OK, c'est un point de vue.
C'est triste.
Mm-hmm.
J'en suis conscient. Mais justement, je vais vous faire parler... je vais vous parler de ma tristesse un peu de cette semaine.
Mm-hmm, oui, tantôt.
Tantôt, mais c'est à peu près ça.
OK. Si je te dis... Quelqu'un fait un exposé, OK? Un exposé devant 350 personnes, mettons.
Oui,
imaginons, là. Et que cette personne-là ose dire que pendant des années, le déficit zéro au Québec avait été réussi, était en place, puis tout ça. OK? Mmh. À plusieurs reprises dans une même présentation. Et qu'on te disait que cette personne-là est un économiste.
Mmh.
Est-ce que tu lui enlèverais son titre d'économiste? Quand une personne ose faire une présentation comme ça, qui dit au moins à 5-6 reprises que le déficit zéro avait été réussi sous Lucien Bouchard, continué au début de la Charest, mais alors qu'on sait que c'est pas vrai.
Non, je sais.
C'est des joutes comptables et tout ça, là.
Mais le problème
Mais
le problème en économie pure, même en économie pure, là, les chiffres, là, on sait qu'on peut les faire parler. Mais c'est sûr que c'est outrageux. C'est outrageux si quelqu'un, un économiste, qui sait que... Tu sais, économie 101, c'est pas trop long que tu vois le poteau rose dans l'histoire du déficit zéro, là.
Mm-hmm. Surtout que ça a été dit à plusieurs reprises par le vérificateur général, que dans le dernier budget, ça a été déterré par les différents journalistes économiques. Puis ben tout ça.
Même les journalistes l'ont effleuré la question parce qu'on le sait qu'il y a eu des manigances. Là,
puis même,
on a mis de l'immobilisation quasiment dans des comptes courants. Puis on a.
Là, on a créé des fonds. Là,
on a faussé toutes sortes de choses.
Exact. Là c'est la mode, Claude. Raymond Bachand, c'est de créer des fonds qui sont en dehors du système comptable, donc ça compte pas dans la dette.
Ouais, c'est ça.
Ben, si je te disais que cette personne-là avait fait une présentation lors du congrès de la DQ du 13 et 14 mai et que cette personne avait été une des quatre personnes qui ont fait les fameux trois pamphlets qui étaient faits par quatre économistes en 2010 pour aider M. Bachand à faire son budget de schnout. Ce monsieur-là s'appelle Luc Godbout. C'est un économiste de l'Université de Sherbrooke qui est allé faire ça. Et je parle pas à travers mon chapeau parce que tu parlais tantôt des médias qui avaient peut-être mal, c'est pas peut-être, là, je peux le confirmer, qui ont mal rapporté ce qui s'est passé là-bas. Il y a une partie du congrès de la DQ qui était sur Ustream.tv sur Internet.
Ah ouais?
Okay? Et si vous trouvez le compte de la DQ sur Ustream, il y a encore la vidéo, qui est à moins qu'il l'ait enlevé dernièrement, là. Et vous pouvez voir la présentation de Luc Godbout au complet. Je ne sais pas si c'est M. Godbout qui remplaçait M. Yari Lofsky. Là.
Ouais.
Je sais pas si c'était un invité de dernière minute. Là. Mais j'ai eu des commentaires. J'ai fait des commentaires suite à avoir regardé au complet la conférence sur Internet. Et j'ai eu beaucoup de réponses sur Twitter, justement, de dire « Ça se peut-tu, qu'est-ce qu'il fait là? » Il y avait encore une dichotomie entre ce que moi, je pensais était la DQ et un conférencier qui est venu faire une présentation PLQ. Carrément. Donc, c'est encore là. C'est des points comme ça, moi, qui fait que j'ai plus de misère avec la DQ maintenant que lui de 2007 avec Mario Dumont. Présentement, c'est encore des choses comme ça que je comprends pas. Comment qu'une personne peut venir faire ça? Puis premièrement, là, on avait discuté dans une ancienne émission de ces fameux trois pamphlets-là. Et la prémisse des trois pamphlets, c'était quoi? C'était de dire... On a décidé pour notre étude, qu'on va remettre à M. Bachand, de dire on ne touche pas au panier de services. Donc, on veut financer au complet tout ce qui va mal présentement.
Ouais.
Comment on va faire ça? Puis ça a donné l'augmentation de TVQ. Ça a
c'est
donné...
l'essence même du budget Bachand.
Exact. Ça a été reflété presque à 90-100% dans
c'est
le budget.
C'est son carburant.
C'est ça. Ça a été reflété dans le budget 2010, ce que des gens comme ça avait proposé, entre autres, Pierre Fortin.
À chaque fois que je paye la TVQ, je pense à ça.
C'est ça.
Je pense à ces trois pamphlets-là.
C'est ça. Moi, regarde, je fais ma propre comptabilité. Puis là, juste d'avoir changé tous mes formulaires que j'avais fait sur ordinateur pour mettre 8,5% dans mes calculs, qui sont automatiques, je t'en maudis. Là.
Ouais.
Je me disais, si la province était bien gérée, on n'aurait pas besoin de faire ça. Mais non, on l'a augmenté, la facilité, jamais faire ce qu'il faut. Cette semaine, on a appris que finalement, les fameux organismes qui devaient être fusionnés là pour ça arrivera pas.
Ouais,
Michel Courchesne l'a dit. Et là, l'excuse, c'est la Conseil du Trésor, c'était pas Michel Courchesne l'an passé.
Ouais.
Donc, c'est plus vrai cette année. Là. Ça marche pas. Les fusions n'auront pas lieu.
Toi, tu remets en question le panel là, comme ça qu'on peut offrir à travers des rassemblements de centre-droit?
Ouais, dans ce cas-ci, oui. Dans ce cas-ci, c'était vraiment un mismatch, là, qu'on dirait en anglais, de ce côté-là. Mais je me pose la question, est-ce qu'on est bien représenté lorsque il y a un groupement politique qui semble avoir une philosophie et qu'elle passe son temps à avoir une tangente différente?
Ouais.
Je sais pas. Moi, je vois que côté stratégie, t'as l'air pour que... Bon,
je suis très stratégique, là.
Ben, je te comprends parce que ça marche avec les Québécois.
Ben oui, donc, c'est ça l'affaire.
Donc là, c'est on veut le pouvoir absolument ou on est-tu mieux d'être dans l'opposition puis toujours mettre de la pression pour que les choses changent? Au moins, on n'aura pas l'odieux des erreurs, tu sais. Quand on est chialeux, qui dit ça devrait être ça. Je sais pas, mais cette partie-là, je suis pas encore rendu là.
Ça me préoccupe. Moi, je te le dis personnellement, ça me préoccupe parce que puis je vois mon entourage qui est pas préoccupé. Ben souvent.
Pas encore.
Ben souvent.
Okay.
J'ai l'impression que je sors de nulle part quand je leur parle de ça.
Et le mouton noir, toi.
Ouais, ça ouais. Le paranoïaque, là, je vois le mal gouvernemental partout, même dans ma soupe. Mais c'est ça, tu sais. Fait que des fois, je me dis, regarde, tu sais, ça sera pas la première fois qu'ils vont se faire manipuler. Puis ce que tu sais pas fait pas mal. Puis en bout de ligne, j'ai l'impression que j'ai tu sais, je suis en contrôle de ma philosophie, puis j'ai l'impression que cette philosophie-là pourrait contribuer à amener le Québec de demain à un Québec, tu sais, beaucoup plus performant, beaucoup plus, tu sais, meilleur pour moi, pour mon entourage, mes enfants, mes parents, peu importe. Bon, je me dis, garde, c'est pas si grave, là.
Parce que ça s'y fait souvent.
Tu sais, on parle pas d'un génocide, là, tu sais, on parle pas d'éliminer une race humaine, tu sais. Mm-hmm. Il y en a qui l'ont fait, là, imagine-toi, pour des choses comme ça. Là. Mm. Nous autres, on parle de s'immiscer peut-être dans l'appareil gouvernemental, puis de mener à terme des choses qu'on a toujours rêvé de voir. Là, puis il y a une question de temps aussi là-dedans.
Mm.
Fait que...
Il y a peut-être deux types de manipulation aussi. Il y a la manipulation de dire... mettons, là, comme pour des gens comme toi puis moi, là, qui lit beaucoup, qui se renseigne, qu'on est intéressé par la politique... Si on s'est renseigné, nous, on a pris la peine de se renseigner,
oui.
On a tout lu ce qu'on pense qu'on devait lire et tout ça. Si nous, on réussit à nous manipuler, c'est parce qu'on va nous avoir menti. Parce qu'on s'est renseigné, puis tout ça.
Ouais, ouais.
Alors qu'il y a le type de manipulation des gens qui s'en foutent, qui suivent rien, puis parce que ils voient les sondages pour Jack Layton monter, ils vont dire « Ah, je suis pas tout seul, finalement, à peut-être être intéressé à voter pour lui, moi le voter pour lui. » Tu sais.
Mm.
Mais des gens qui se sont pas intéressés au programme politique, rien, tu sais.
Non.
Donc, je me dis, avoir à choisir ma manipulation, j'aimerais mieux de manipuler parce que j'ai pas fait le travail. Enfin, je me suis pas renseigné que de dire, Kim, j'ai tout lu, ça me paraît bon, je vote pour eux et ils me font pas du tout ce qu'ils ont dit, comme en 2003, le PLQ. Le PLQ, là, c'était, l'offre politique 2003 de PLQ était intéressante, là. C'est juste qu'ils l'ont pas fait. Fait que ça, c'est une manipulation par le mensonge.
Mais c'est ça, mais moi, je te dis pas d'aller jouer là-dedans, là. Je dis pas de vendre une salade, puis un coup, là, arriver au pouvoir, là, de pas mettre la vinaigrette qu'on avait promis avec la salade. Non, non, non. Moi, je te dis, pour arriver là, de faire un peu de manipulation puis de stratégie, mais un coup au pouvoir, c'est de livrer les mesures. Puis là, quitte à avoir un agenda caché.
Oh! Pas le mot maudit.
Moi, je le dis. Parce que toute organisation a des agendas cachés.
Mm.
Sérieusement, là, ceux qui vous le disent qu'ils n'en ont pas, là, c'est des menteurs.
Par exemple, ceux qui engagent des consultants.
Moi, ça fait... J'ai une petite carrière. Là. J'ai 39 ans. Ça fait 17 ans que je suis sur le marché de l'emploi. Et j'ai compris que si je voulais un jour me démarquer, il y en a qui vont dire progresser, accéder à des fonctions supérieures, des choses... J'ai compris que je devais être stratégique. Ça, c'est en plus du réseau de contact. Là.
Mm-hmm.
Stratégique. Sans dire avoir un agenda caché. Comprendre un petit peu mieux ceux qui en ont, on va dire. Puis aller en connaître là, un peu cet agenda caché-là.
Mm-hmm.
Comme ça, là, tu réussis à te positionner. Puis tu réussis à mieux jouer tes affaires. T'sais. C'est ça aussi là-dedans. Là. On dit la game politique, ça en est une.
Oui, c'est une game. C'est un match, c'est sûr.
Fait qu'à partir de ce moment-là, tu sais, c'est pas un compute là, qui joue à la patente. Là. Il y a de l'émotion là-dedans. C'est très humain.
Donc toi, tu dis, jouons la game, quitte à pas être clean tout le temps.
Ben, je dis pas... encore là, être pas clean, il faut faire attention. Je dis pas de voler son prochain, puis je dis pas non plus de piler sur ses valeurs, loin de là. Mais tu sais, de détourner un peu l'information, de faire des associations, bon, je me dis pas.
Okay.
Ça peut être le cas.
Puis si on part de la question du début, là, est-ce que tu te sens représenté, est-ce que tu te sens bien représenté par les partis politiques qui sont de centre-droite théoriquement?
Vraie réponse,
le Parti conservateur et la DQ.
Vraie réponse, non.
OK. Pour, en gros.
Ben, parce que...
Mettons séparément, là, si tu commences par la DQ, puis après...
En fait, tu sais, je suis mal représenté par l'appareil politique, là. Si tu veux être, je veux être honnête, là. Je veux dire, c'est d'une lourdeur administrative. Ces gens-là ne travaillent pas dans... Tu sais, je veux dire, ils débattent, là, un moment donné. Écoute, les seuls moments que j'ai investis derrière le téléviseur à regarder, que ce soit l'Assemblée nationale ici au Québec ou la colline parlementaire à Ottawa, je veux dire, ils sont pas en train de discuter de ça, là, tu sais. Ça n'a pas de bon sens, là, tu sais. Ils sont où les priorités de nos gouvernements, tu sais. On est en train de débattre de projets de loi pour invalider certains règlements municipaux. C'est parce que la priorité de l'État, c'est pas ça, là.
Mm-hmm.
Ça, c'est un exemple, là, le projet 204 qu'on a déposé cette semaine. Tu te dis, on est rendu là, puis les autres dossiers sont où? Fait que, tu sais, à quelque part, que ce soit mon parti politique ou celui d'un autre, je me dis, je crois pas vraiment à la politique en général, mais je sais très bien qu'il faut, comme je te dis, depuis tantôt que je dis qu'il faut être stratégique. Fait que, mais sachant ça, je me sens pas représenté parce que d'un, je trouve que soit qu'ils sont pas assez agressifs, soit qu'ils mettent pas de l'avant, comme tu disais tantôt, le plan que moi je m'aurais attendu. Tu sais, tu disais, c'est pas adéquiste de dire ça ou de faire ça ou d'avoir ce type de diffusion d'informations, que ce soit par des invités à des congrès. C'est sûr. Il y a bien des fois que. Mais bon, c'est-tu l'ensemble de l'œuvre qui est important ou un fort pourcentage? Puis quand tu regardes les alternatives, c'est quoi? J'annule mon vote? Je fais fi de la politique? T'sais. C'est quoi les alternatives? Mm-hmm. Je te renverse la question. Est-ce que tu te sens représenté?
Ben moi, à date, pas tout à fait, c'est sûr et certain. La DQ a fait des bons moves. Il y a des moves que c'est sûr que j'aurais peut-être suggéré si c'est faisable, là, parce que je ne sais pas comment qu'un militant est considéré vraiment dans un congrès. J'ai jamais été. Là.
Est-ce que toi, en même temps, si mettons, tu aurais eu ta carte, tu l'aurais pris encore plus personnel.
Oui. Mais c'est ça. Mais est-ce qu'on laisse vraiment parler les gens? Moi, je me rappelle d'un congrès où est-ce que le petit Simon-Pierre Diamond là, avait accaparé les micros avec sa gang de chums là, pour éviter que les dissidents puissent parler pendant le congrès. Si c'est ça la politique, là, peux-tu dire que j'embarquerai jamais là, là-dedans? Déjà que je me dis que j'ai déjà une mauvaise opinion de ce qui se fait. Mais en plus qu'à l'interne, on fasse du cross-oyage comme ça.
Mais c'est encore la stratégie.
On n'est pas surpris. Le gars, maintenant, il est au PLQ, donc on ne se surprend pas de ses manières. Mais c'est le genre d'affaire, moi, j'aimerais pas subir, là, dire, va occuper quatre places à ce micro-là, va là-bas cinq, c'est une gang de 10 jeunes là, qui sortent de l'université et qui décident,
c'est ça,
moi...
C'est égoïste.
Toi. C'est ça, on va runner à game à matin, là, ça, je trouve pas ça correct. Mais il y a un peu de travail. Les choses que j'aurais suggérées, peut-être des suggestions pour les syndicats, mais j'en aurais peut-être eu quelques-unes là, là-dessus. J'ai toujours dit, je suis pas anti-syndical, je suis anti-syndicat à la sauce québécoise. Je trouve que la façon québécoise de faire du syndicalisme est inacceptable, ouais. Mais je suis pour les syndicats, dans ce sens-là. Fait que j'aurais peut-être été dans des propositions comme ça, plus disant, parce que le problème, présentement au Québec, c'est la lourdeur qui arrive. Ce qu'il faut faire, oui, les votes secrets, puis ça, je suis 100% pour, mais on pourra rien faire au Québec tant que la sécurité d'emploi va exister. Puis moi, le genre de proposition que j'aurais faite, là, c'est, écoute, on travaille pour être élu, on aimerait ça être élu pour deux mandats. J'aurais dit, pour deux mandats, la sécurité en emploi dans la fonction publique, on l'enlève pour qu'on puisse faire les réformes. Moi, ça aurait été une des genres de propositions que j'aurais faites, parce que là, présentement, là, c'est on est pogné avec les employés.
Mais tu es en train de me dire que tu trouves que les mesures sont passées à droite?
Non, c'est que je pense que c'était pas les bonnes.
C'était pas les bonnes?
Ouais. Moi, je trouve que c'est ça. T'auras beau augmenter l'efficience d'un ministère, si t'es obligé de garder tout le monde de toute façon, à voler où l'efficience? Ça donne absolument rien. Ça prend le pouvoir d'agir, tu sais.
Et comme dirait notre ami Jerry, sont où les boîtes?
C'est ça. Donc, moi, j'aurais peut-être été plus dans ce sens-là, de dire, donnez-nous la permission d'améliorer l'État.
Ouais, je comprends.
Puis, tu sais, quand je te parle de pédagogie, là, quand tu dis... on va avoir une pénurie d'emplois présentement dans la capitale nationale. C'est le temps ou jamais de peut-être de dire, écoute, on n'a plus besoin de vos services, mais le privé est capable d'absorber tous les emplois qui s'en vont là-dedans. C'est ça, faire de la pédagogie, c'est de l'expliquer. Même si ça va peut-être me toucher moi personnellement, mais Christy, est-ce que je veux avoir un emploi à vie qui ne sert à rien? Juste parce que j'ai un emploi, ça peut pas marcher.
Oui, mais je sais, mais on est rendu un peu là aussi. C'est pour ça que je te dis, tantôt, c'est quoi de manipuler ces gens-là? Au moins, si tu vas chercher son vote.
Oui, mais moi, j'irais plus par l'explication, la patience.
Mais écoute, tu seras au pouvoir, Danny, tu pourras prendre ces décisions-là.
Oui, mais là, ils vont dire, je n'ai pas voté pour ça.
Ouais, mais
comme la Claudette avait dit.
Je suis d'accord, mais tu sais, si ça reste dans un congrès d'un parti qui s'en va à l'opposition, ta proposition, là, même si elle est en or, puis elle est plus... précise ou plus arrêtée, elle va mourir. Là. C'est plate à dire.
Oui, mais en même temps, avant de décider pour qui tu votes, tu sais que cette proposition-là est dans le programme.
Je suis tout à fait d'accord, mais tu es encore loin. Quand tu es dans une proposition à un congrès, d'une proposition ou d'une loi déposée en chambre, là, on s'entend. Là, c'est...
Non, non, c'est sûr, mais quand on vote, sur la plateforme.
Oui, je suis d'accord,
C'est un peu ça. Là. Moi, le côté syndicat, peut-être que j'ai été plus vers là, parce que on a beau chanter puis faire les louanges du mot « efficience », là. Avec la sécurité d'emploi, c'est impossible. Mmh. Ça n'arrivera pas. Là. Puis, il n'est pas supposé d'avoir plus de gens qui sont à l'emploi du gouvernement. Avec l'informatique qui s'améliore, il devrait avoir besoin de moins de choses. Ils disent que la population va baisser, le nombre de fonctionnaires augmente, que c'est ça. Ça ne marche pas.
Puis, l'autre fois, j'en ai pas parlé en nombre. Je l'avais apporté, mon cadre, avec mon certificat. Je suis maintenant ceinture verte, on va dire, au Québec, en amélioration continue. Puis, une des premières choses que tu fais quand tu rentres dans un projet d'amélioration ou d'efficience, tu remets tout en question. Tu dis aux personnes, on ne peut pas ne pas remettre votre job. Mm. Si vous embarquez dans le projet, vous travaillez pour le projet, tu sais. Mm. Puis assez souvent, les personnes qui vont demeurer vont être hyper heureuses parce qu'ils vont se retrouver dans un job beaucoup plus efficace. Tu sais. Puis ceux qui vont disparaître, ils vont se rendre compte en faisant l'exercice que finalement, c'était d'une nullité ce qu'ils faisaient. Mm. Ça n'avait aucune valeur ajoutée.
Exact, c'était du clérical.
Par eux-mêmes, ils vont s'exclure. Ils vont dire « Ouais, c'est le gros bon sens. » Et là, tu vas préparer, tu sais, la learning curve, là, tu sais, excusez encore l'anglicisme, mais tu sais, la gestion du changement, là, tu sais, la personne va « Bon, c'est sûr, il va passer par le découragement, puis tatatata, il va se dévaloriser, puis il va se choquer, puis à un moment donné, pouf, il va repartir. » Puis comme tu dis, c'est peut-être dans l'entreprise privée qu'il va s'en aller. Parce qu'on a l'impression de dire à toutes les fois que si on coupe des jobs là, ah, mais c'est terminé.
C'est le chômage puis le BS à
c'est
vie.
C'est terminé, mais c'est
non,
ça.
C'est pas de même.
Hey, écoutez, dans l'appareil public, il y a des jobs, puis dans la fonction privée, dans le privé, il y en manque.
Il y en manque.
Puis les entreprises de pointe qui payent très bien, je peux vous le dire. Travaillais dans une entreprise où on avait des jobs hautement rémunérés avec un secondaire 5. On parle des fonctions qui tu commences à 20, 21 $ de l'heure. On n'avait pas de ressources. Oui, il y avait peut-être des contraintes d'horaire, des chiffres, le soir, le week-end, des choses. Mais écoute, on cherchait de la main-d'œuvre, tu peux pas t'imaginer comment. Fais-moi pas à croire que le gars qui travaille comme commis de bureau, là, tu sais, pour classer des papiers, il y en a encore de ça au gouvernement à 15 ou 16, 17 $ de l'heure avec une sécurité qui va dire, mais non, je vais cracher. Non, mais écoute, à un moment donné, c'est une question de valorisation, mais on l'a-tu perdu?
C'est ça, puis les possibilités d'avancement au gouvernement, là, c'est pas la mer à boire.
Non,
au nombre de commis là, de première instance. Là,
ben, c'est parce que tout est régi par une classe d'emploi, par des concours, puis le syndicat qui s'assure que toi, va pas plus vite que l'échelle salariale, puis que la fonction qui t'est offerte, puis là, c'est du posting, puis là, tu sais, les meilleurs, c'est pas nécessairement eux qui ont les premiers choix. Ça, fait que, c'est...
Alors que dans le privé, ben souvent, t'as des chances. Si t'es bon, puis que c'est pas syndiqué en plus, ou que t'as un syndicat qui a de l'allure, parce qu'il y a des syndicats qui ont de l'allure, puis qui acceptent ça, que c'est pas nécessairement l'ancienneté, que c'est la compétence, que c'est travaillable. J'ai travaillé moi-même avec des syndicats parlables que j'ai beaucoup apprécié.
Et j'ai aimé ta remarque la semaine passée, justement. T'sais, on a le syndicat qu'on mérite aussi. C'est pas juste la faute du syndicat.
Non, tout est là. Puis c'est pour ça que moi, que j'ai pas le réflexe de toujours frapper sur le syndicat. Il y en a qui criaient victoire, là, parce que dans le Wisconsin, là, ils ont fait des lois matraques antisyndicales. Moi, je suis pas de même. Je me dis, il y a sûrement moyen, en convainquant le plus possible les gens de dire « on peut plus travailler comme ça ». Quand ça marche plus, tu y vas faire une loi spéciale, mais de dire « yes, il n'y a plus aucun syndicat », je suis pas de ce genre-là. Mais moi, je serais du genre, là, la prochaine fois que le gouvernement veut mettre une loi spéciale, au lieu de la faire sur pour dire « votre salaire, ça va être ça maintenant », là, j'aimerais mieux une loi spéciale qui dit « écoutez, là, pendant 8 ans, on enlève la sécurité d'emploi parce que il faut faire les réformes, puis c'est ça qui nous empêche de les faire ». C'est pas vrai que vous allez accepter d'être imposé à 65%, là, tu sais. Donc, c'est un peu ça. Il faut arrêter, là. Mais ça prend du monde convaincant. Ça prend des leaders. Puis c'est comme ça que ça passe, hein. Le leadership, là, c'est ça qui fait tout passer. Même les coups durs, puis les bons coups. Un leader, c'est... Excuse-moi. J'avais pas choisi. Ben, c'est ça. Ça m'a pris du temps à comprendre. Il me fait des signes, là, c'est pour ça... Je me suis fait avoir. Mais c'est ça, donc ça prend le leader. Où est ce leader? Oh, que ça finit à bonne chronique, ça. Il n'est pas évident, mais c'est un peu ça.
Là, je pense qu'il faudra repasser 2 heures là, là-dessus.
Partir un autre. Qu'est-ce qu'un leader?
Ben, c'est ça.
Ouais, on pourrait peut-être trouver ça, quelqu'un qui fait... Ouais. Et moi, j'ai déjà.
Peut-être. Tu sais, puis j'ai pensé à Marc Gervais cette semaine. Toi, tu avais commencé aussi des discussions peut-être, tu sais, avec les gens qui font justement des... des discours, là, je vais pas dire des motivateurs, mais des gens, tu sais, qu'est-ce qu'un leader aujourd'hui?
Mm. Moi, j'ai déjà pris un cours en politique, mais pas le politique. Pas politique provinciale, la politique en entreprise.
Oh, oui, c'est ça.
Si vous avez la chance de prendre un cours là-dessus, là,
le pouvoir allez... d'influence.
Et boy, peut-être que je pourrais vous amener le nom d'un livre la semaine prochaine, là, que j'avais mon livre de notes de cours.
Un petit
là.
Côté comme ça, parce que c'est ça aujourd'hui aussi. Il faut travailler sur ces aspects-là. Là. Le leadership.
Leadership, les pouvoirs politiques en entreprise l'influence. Ou tout ça. Il faudrait peut-être faire ça.
Dans ma stratégie là, pour remporter le pouvoir, il y a beaucoup ça. Ouais, le pouvoir ça. D'influence et de leadership.
Hein? On n'a pas parlé du Parti conservateur, mais on pourrait regarder ça pour une autre émission. Moi, j'ai certaines déceptions aussi de ce côté-là.
Ben, on pourrait se garder
aussi,
sur,
sûrement, donc on pourrait garder une autre émission. Il nous en reste trois.
Oui, effectivement. On va faire une petite pause.
C'est bon.
D'autre côté, là, je vais terminer l'émission avec mes déceptions.
Ouais.
Donc, vous êtes à connaître la suite sur les ondes du XM156 et du Radiochoc.fm. Et c'est toujours 0-0 entre Boston et Tampa Bay pour ceux qui sont des maniaques du hockey et qui nous écoutent à l'intérieur de leur camion et qui sont pris, là, qui peuvent pas s'intoniser n'importe, tu sais, je sais pas, il y a des stations de sport, surtout aux États-Unis, ils diffusent pas tout le match. Je suis allé voir un match à Boston contre Tampa Bay, le premier match, et à ma grande surprise, là, quand j'ai traversé quelques États, on y était. Oui, on n'avait rien. Okay. Donc, on se retrouve de l'autre côté. De retour. Il reste à peine 15 minutes à l'émission, mon Danny.
Yes.
Ça a passé
comme une balle.
Comme une balle.
Comme un TGV.
Comme un TGV. Oh là! Hey, on n'est même pas dans l'histoire du TGV encore. Je sais pas s'il va rester de l'encre dans les crayons des journaleux.
Ouais.
C'est incroyable. Et c'est un peu là-dessus, justement, que je veux faire. Et c'est un état d'âme que je vous partage ce soir. Et je veux voir à quel point je suis peut-être à l'opposé de la majorité des gens, mais j'ai l'impression que ce que je vais vous raconter, c'est un peu ce que vous avez vécu, vous aussi. Parce que j'ai lu beaucoup de gens qui sont écœurés, tannés d'entendre parler du Colisée, de l'Amphithéâtre de Québec. C'est une overdose collective. Je peux même pas comprendre comment est-ce qu'on peut arriver. Et là, je fais une relation directe parce que ce soir, vous écoutez un média. Bon, on fait une émission de radio, puis il y a beaucoup d'émissions de radio dans la région de Québec, puis je peux pas comprendre qu'à tous les matins, on est encore à taper le clou de l'amphithéâtre. Sérieusement, là, tu sais, à un moment donné, c'est un peu comme faire le 11 septembre, là, vitam aeternam. Là, tu sais, à un moment donné, il n'y a plus rien à dire.
C'est ça, il n'y en a plus d'arguments.
Il n'y a plus rien. C'est là que là tu tombes dans complètement, là, tu
dans la
cul de but. Puis là, tu t'en vas, là, dans... Et puis là, à un moment donné, ces gens-là vont se réveiller, puis je leur lance un message, parce que c'est très dangereux ce qu'on est en train de faire là, parce que tout à l'heure, là, ça va les mener directement dans le fond là de quelque chose qu'ils n'ont jamais... Parce que, puis il y en a qui sont... Regardez Winnipeg, là, hein? Low profile, on le dira quand c'est le temps... Puis ça s'en vient, puis pas plus. Là.
Complètement une autre stratégie.
Pis c'est drôle, ils vont voir le club avant Québec. Puis c'est ça que les gens comprennent pas à Québec. Moi, c'est ça qui me fait capoter. C'est quand on fait cette équation-là, amphithéâtre égale club de hockey, c'est pas le cas. Mais c'est pas ça. Ça, c'est un peu la cerise sur le Sunday. Mais je dirais que cette semaine, puis je t'expliquais ça avant d'arriver en onde, j'essaye de... Puis je tape sur un buzz, je fume pas de drogue, je me pique pas, je fais rien de tout ça. Cette semaine, c'est arrivé à deux occasions. Faut croire qu'il était très tard en soirée, là. Mais, tu sais, premièrement, j'ai commencé à zapper. Tu sais, la zapette, là, ploum, ploum, ting, puis là, je regardais l'offre, tu sais. Bon, sans dire que là, je cherchais une émission avec des gens articulés, débattre des idées. Non, je me suis dit... Bon, on va aller consulter l'offre, là, puis je suis pas quelqu'un, sérieusement, dans la maison, c'est drôle à dire, mais la télé, c'est ma blonde.
Okay.
C'est une histoire de blonde, c'est elle qui écoute la télé. Sauf quand t'as des matchs de hockey, là, où là, ça me passionne, mais même encore là, les matchs de hockey, je les écoute pas tous. Pour moi, il y a bien d'autres choses avant la télé. Fait que là, pour une des rares fois, c'est moi qui ai la manette, puis là, tu sais, je regarde, puis là, à un moment donné, c'est quoi aujourd'hui, l'offre, là, on parle de 50, 60 postes, je sais même pas, 100 postes.
Ouais, exact.
Puis, il a fallu que j'en fasse plusieurs, Danny, tu sais. Malheureusement, je suis tombé sur des reprises à Sun TV.
OK.
Puis, je l'avais déjà vu. Fait que là, tu sais, je continue. Puis là, à un moment donné, je commence à regarder ça. Puis là, je dis, hey, regardons ça, toi. C'est ça, c'est quoi cette émission-là? Puis là, l'autre, c'est quoi? Hein? Puis là, tu sais, je veux pas juger les gens qui écoutent la télé. Puis c'est pas ça le but non plus, là, la chronique. Mais... Je veux dire, c'est pas long que tu te rends compte que, tu sais, si tu fais pas dans le téléroman ou dans la téléréalité ou dans le sensationnalisme, t'as rien, là. Tu sais, t'as rien vraiment à te mettre sous la dent, là. Tu sais, t'as même pas un petit découverte, là. Je sais pas. Non, mais tu sais, même pas, là. Tu sais, on s'entend, là. Fait qu'on voit que, tu sais, premièrement, nos télés détournent, que ce soit télé Québécois, je veux dire, par ses réseaux spécialisés, ils t'offrent pas grand-chose. T'sais, le contenu est assez similaire d'une station à l'autre. Et là, je me dis, ben moi, en tant que citoyen, bon, là, c'est là que je me suis rendu compte rapidement, j'ai pas trop rien à me mettre sous la dent. Fait que là, je me dis, bon, on ferme la TV, on arrête ça là. Puis là, ben j'ai dit, ben c'est le temps peut-être de profiter du temps pour aller sur les blogs, les sites internet, puis aller lire un peu les filières de presse, puis ce que j'ai manqué. Mais là, tu sais, tu tombes sur des nouvelles, là, puis là, ben, le Colisée, hein, il revient aux deux nouvelles. Fait que ça, t'as déjà ça. Après ça, tu regardes tout ce qui est galvaudé par les médias, que ce soit, bon, par rapport à un événement culturel, que ce soit par rapport à une équipe de hockey. Fait que là, tu dis, ouais. Encore là, j'ai pas grand-chose à me rassasier. Fait que là, à un moment donné, ben, tu vas sur des places un peu plus spécialisées. Puis là, ben, tu te rends compte que, ouais, c'est pas... Puis là, je cite Antagoniste, que là, sort des nouvelles, puis là, tu oh, c'est là, ça te préoccupe, tu sais. Tu dis, ouais, la seule source d'information que j'ai, tu sais, c'est pas Jojo. C'est pas avec ça que, tu sais, je vais fêter à soir, là, tu sais. Oups, tu commences à regarder ça, puis tu sais, ouais, c'est donc bien vrai. Puis je félicite l'antagoniste, ben là. Oui. Il a senti une coupe de billets, là, dernièrement, là, tu sais, c'est. Mm. Puis il faut l'avoir. Si on a un engagement à prendre à l'émission, là, il faut
partout. Il reste trois shows, David.
On va y envoyer l'extra. On te veut. Regarde, je sais pas, je l'ai jamais entendu. Je sais pas si c'est parce qu'il y a une gêne, je sais pas. Ou... Mm. Mais c'est sûr, peu importe, là.
Il a dit que notre show était sur sa to-do list.
OK, parce que, en tout cas.
Il m'a dit ça. On veut t'avoir.
Qui nous donne 50% de ce qu'il livre sur son site, là, puis ça va être déjà.
50, c'est beaucoup.
Oh, oui, mais ça va être
qui
déjà.
Il nous en donne 10%.
Ah, 10%.
Déjà, non, mais, ça va être excellent.
Mais non, sérieusement. Et là, c'est là que, tu sais, de fil en aiguille, là, c'est ça. Là, ça t'amène, parce que souvent, tu sais. Puis je remercie le Twitter pour ça. Moi, c'est maintenant ma source d'information. Mm-hmm. Parce que c'est comme ça que tu enfiles toutes les discussions. Mais là, tu lis ça. Puis là, à un moment donné, tu te retrouves dans ton coin, tu dis, bon, là, j'ai rien à TV. J'ai quasiment rien à mettre sous la dent dans la radio quand je m'en vais. Tu sais, parce que là, moi, je réside à Québec. Hein, moi puis Daniel, on est à Québec. Mm-hmm. Fait que là, le matin, gars, c'est un overdose. Même juste le réveil matin. Ma blonde a mis le réveil matin. Puis, c'est soit qu'il y a le mot hockey, la bombe ou colisée, tu sais. Je suis plus capable, tu sais. Fait que c'est ça, j'arrive dans mon véhicule, j'écoute pas de ça. Fait que là, tu dis, je peux pas consommer à la radio, je peux pas consommer à la télé, il y a rien de bon, là, tu sais.
Mm. Les journaux.
Puis, où je me documente, ben là, c'est, tu sais, je veux dire, c'est de quoi virer quasiment débile par rapport à ce mouvement de conscience-là que je me dis, écoute, c'est quoi, là, je suis tout seul dans mon salon à voir sur mon écran, là, ces chiffres-là qui me renversent. Mm-hmm. Pourtant, ils sont passés, parce que ça sort pas de nulle part, tu sais. Antagoniste, quand il met quelque chose, puis quand ça apparaît sur le web, là, c'est parce que c'est apparu à quelque part d'autre, puis que ça a pas été traité en profondeur. Surtout Antagoniste, il aime ça fouiller plus en détail les choses qui se disent à gauche et à droite.
Il met ses sources avec le lien tout le temps.
Puis là, tu consommes. Il y en a de mainstream qui vont bien, là, tu sais, des Nathalie Grably, tu sais, des Richard Martineau, ils écrivent des billets. Mais là, tu sais, ça, c'est comme la petite surface, là, tu sais, ceux qui sont mainstream. Mais quand tu commences à creuser puis tu vas jusqu'à Antagoniste, là, tu regardes ça, tu dis, hey, là, ça va pas bien. Puis là, tu sais, je sais pas si les gens constatent ce que je constate. Mais je me dis, il est où le vent de changement? Parce que là, moi, c'est pas un vent, là. C'est une brise. Même encore là, une brise, là. Puis même, tantôt, tu parlais de l'ADQ, du Parti conservateur, tu sais. S'il incarne le changement, on est loin encore du changement, là. Mm. Ils sont peut-être timides parce qu'ils jouent peut-être une game politique.
Ben ouais.
Mais peut-être. Là, je me suis dit, cette semaine, et surtout à voir mes collègues, mes compatriotes, mes concitoyens, mes membres de famille, n'importe qui sont là, qui consomment cette galvaude publique sur l'amphithéâtre à Québec, sur les hausses de tarifs à droite et à gauche, sur les problèmes qu'on rencontre dans nos projets de société. Là, tu te dis, écoute, il n'y a personne qui peut se réveiller, parce que quand ils écoutent la télé puis la radio, on est complètement anesthésié. Tu comprends? Mm-hmm. Fait que ces gens-là, là, ils ont reçu leur dose. Fait que, ils sont gelés. Ils peuvent pas comprendre, en fait, la réalité. Est-ce que c'est moi qui vis dans un monde parallèle? Je sais pas si tu te sens comme ça.
Ben, ça dépend.
Mais je me sentais tout seul au monde.
Ouais.
Parce que, aussitôt qu'en plus, je m'extériorise, puis j'essaie d'en parler aux autres, les gens disent, ben voyons donc, c'est pas si pire que ça. Voyons donc. Mm. Voyons donc. De quoi tu te plains? Mm. C'est sûr de quoi je me plains. Je travaille, je gagne bien ma vie, puis les gens, esthétiquement, peuvent dire, oh oui, ça va. Mais écoute, t'es dans ton salon, t'as rien à te mettre sous la dent. Tout ce que tu te mets sous la dent, c'est pas un plaisir en bouche. Parce que moi,
c'est
là,
pré-mange.
Je trippe. Non, non, mais oui. Puis, oui, comme la salade de Kentucky. Mais même ce que je peux mettre en bouche, ça goûte pas bon. Parce que moi, je trippe pas, là. Tu sais, quand je vois des tableaux décourageants, là, puis des affaires... qui sont noirs, là, tu sais, faut le dire. C'est pas Jojo. Mais je me dis, les autres autour, c'est qu'est-ce qu'ils font? C'est-tu moi? Je suis seul à mon coin? Je battrippe-tu? Je suis en train de focusser peut-être sur la mauvaise chose? Ou bien si collectivement, on s'en va dans le mur, puis pas à peu près? Parce que là, moi, la théorie du mur, oui, j'y crois, Mais longtemps, je me suis dit, ah, ben oui, mais tu sais, mais qu'on le voit, là, tu sais, on va tous au moins tourner à gauche ou à droite. Mais là, on dirait
c'est
que.
Sûr.
Mais là, on dirait qu'on y va droit devant, collectivement. Puis là, l'amphithéâtre, ça, c'était la cerise sur le Sunday, là. Puis je remercie sérieusement, je ne sais pas si les auditeurs ont vu la lettre de Pierre Simard et on voulait la voir ce soir. Et on peut comprendre pourquoi il a refusé aussi, parce que il est allé avec une belle plume, il a dit les vraies choses, ça a peut-être choqué bien des personnes, ça a peut-être créé des frictions au sein d'émissions de stations de radio, parce que il a décrié une station à Québec, puis tout le monde la connaît, parce que Choix s'est fait le défenseur de la liberté d'expression. Mais là, on est en train de nous baïonner, tu sais, publiquement, puis les gens embarquent là-dedans, puis je remets pas en question la loi, puis le processus législatif, puis de dépôt d'un projet de loi, là. Mais fondamentalement, on est en train de se faire agresser publiquement par rapport à nos libertés, puis on embarque là-dedans. Je me dis, tu sais, tantôt, quand je te dis manipuler, je me dis, si les gens sont rendus là...
Ils méritent d'être manipulés.
Ben, c'est quasiment ça qu'ils méritent. Ben
moi, c'est ce que je retiens d'un peu de ce que tu as dit tantôt. On accumule les preuves que les gens acceptent de l'être.
Ça te décourage pas, toi?
Ben, moi, ça me décourage.
Tu sais, t'arrives pas au travail, là. Peu importe tes travails, là. On sait que t'en as plusieurs. Là. T'arrives pas à te décourager de ça?
Ben, il faut pas. Il faut que ça soit dans les différents tiroirs, là, tu sais. Que t'arrives au travail, c'est une autre réalité.
Oui, je sais,
client,
mais...
C'est différents tiroirs. Mais tu sais... Moi, j'en reviens souvent tout le temps à la définition de leader. Moi, je comprends pas que, surtout dans la ville de Québec, entre autres, présentement, les gens considèrent la bombe comme un leader.
Ouais, mais même à l'extérieur de la ville de Québec, tout le monde veut la bombe.
C'est incroyable. Moi, j'en reviens pas. C'est pas ça, un leader. Puis, j'écrivais cette semaine sur mon Twitter, je me disais, un vrai leader, il ferait quoi? Il irait pas broyer au gouvernement pour avoir une loi spéciale. Il dirait, j'aimerais ça vous rencontrer, monsieur de Belval. Et qu'est-ce que ça vous prendrait?
Pour vous réconforter?
Pas dans le sens, là, je te donne du cash.
Non.
C'est quoi qui manque à notre entente entre moi puis Pelado pour te satisfaire? Il me semble qu'un leader, c'est ça qu'il ferait. Non. Ouais. Lui, là, il a dit, il a traité les gens de quoi? C'est quoi cette semaine? Je ne m'en rappelle pas des mots.
Garde,
les idiots, des poltrons, n'importe quoi. Là.
Ton répertoire à la baume là-dessus, il est énorme.
Les juristes, c'est des si, puis c'est ça. Moi, je sais pas. J'ai peut-être. Moi, c'est ma définition de leader. Tu le reçois, viens, on va parler. C'est quoi qui manque? Je ne demande pas mieux que ça soit légal. Tu trouves que c'est illégal? Moi, je dis que c'est légal. Puis même qu'en entrevue, la baume a dit que. Il dit carrément qu'il ne sait pas si c'est légal. Il aurait pu. Moi, j'aurais pas traité mon adversaire de con. Je l'aurais assis avec moi.
Mais...
C'est quoi qui manque? Il a été directeur de la ville,
ben
M.
Oui.
de Belval. Il connaît la loi.
Ben oui.
C'est quoi dans notre entente actuelle, M. de Belval, qui ne répond pas à la loi? Puis bang!
On
n'a même pas été à besoin d'aller voir Mme Maltais.
T'sais. On s'entend qu'un directeur général d'une ville, c'est quasiment. Hein?
C'est quasiment le maire.
C'est lui qui gère tout l'opérationnel d'une ville.
C'est clair. Surtout présentement.
Ben voyons donc.
Présentement, tu sais.
Mais
la bombe, la
quand je te disais, je te parlais de mon offre, là, j'ai vu un affaire qui m'a jeté à terre. C'est le Club des Ex. Je suis tombé sur une reprise du Club des Ex qui commentait ce dossier-là. Okay. C'était du n'importe quoi.
Ah ouais.
Du n'importe quoi.
OK.
C'était, sérieusement, là, je veux dire, d'avoir le tu sais, ils ont traité de l'information aussitôt qu'ils l'ont eu parce que c'est sorti sur... Le projet de loi a été envoyé à tout le monde, puis les autres, ils l'ont eu rapidement, puis ils en ont traité rapidement, mais c'est incroyable. Là. C'est incroyable. Ah, il reste à peu près 25 minutes à l'émission.
25 secondes.
25 secondes. Faut dire salut à tout le monde. Chance, tu me l'as dit. Ben, on va se reprendre.
Ça passe trop vite.
La semaine prochaine.
Ouais.
Salut tout le monde.
On continue.
On n'a pas le choix. Reste 3 émissions. Bye-bye.